Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir, cher Serge.
Bonsoir, Victoria. Bonsoir, Patrick Goffman.
Bonsoir, Serge de Bekech.
Bonsoir, Monsieur le Marquis.
Bonsoir, patron.
Et j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Madame Marie-France Garraud. Bonsoir, Madame.
Bonsoir.
Je recevrai également Pierre Descaves. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir.
Et puis, j'ai au téléphone, pour commencer, Bernard Anthony. Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous organisez une manifestation, je crois, je sais.
Vous savez.
Devant l'ambassade de Turquie. Vous pouvez me dire en quelques mots ce que vous attendez de cette manifestation?
Oui, alors d'abord, quelques précisions, parce qu'on les oublie ensuite, et je vais aller vite. C'est donc samedi 30 avril, à partir de 16h, place de Bolivie, à l'angle de la rue d'Ankara et de la rue de Lamballe, c'est-à-dire à proximité de l'ambassade de Turquie, un rassemblement pour dire repentance, oui, entrer dans l'Europe, quelle qu'elle soit, non, puisque évidemment, nous sommes contre cette Europe-là. Les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent bien ce que je déclare à propos de cette Europe. C'est donc une manifestation qui s'inscrit dans le cadre des réunions que j'ai organisées un peu partout sur le 90e anniversaire du génocide arménien, dont j'avais été au Parlement européen, pour la reconnaissance duquel j'avais été au Parlement européen un défenseur, je crois, actif. Et puis il faut rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est grâce à la DRIF qui a intenté des premiers procès à l'historien négationniste Bernard Lévis, qui dans Le Monde niait ce génocide arménien, que finalement, par un enchaînement que je ne décrirai pas, celui-ci a enfin été reconnu, au moins devant nos tribunaux, alors que M. Chirac se garde bien d'employer le mot, et M. Barnier de même. Alors donc, il y aura des slogans, une lettre portée à l'ambassadeur de Turquie, dans laquelle nous réclamerons à la Turquie ce que tout de même l'Allemagne a accordé aux victimes de la Shoah. Je rappelle en effet que la Turquie était au début du siècle un grand pays chrétien. Il y avait 30% de chrétiens, pas seulement des Arméniens, des Assyro-Chaldéens qui ont été exterminés, des Grecs qui ont subi le même sort. Et je salue la revue Histoire du Christianisme qui, dans sa livraison de ces jours-ci, parle des derniers Araméens du sud-est anatolien qui ont été exterminés par les Kurdes, ça n'était pas il y a 90 ans, c'est tout simplement dans les dernières années. Alors, la Turquie pour laquelle Jacques Chirac a les yeux de chimène, cette Turquie, il faut tout de même rappeler qu'elle frappe d'une peine de 15 ans de prison les non-négationnistes. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire, Serge de Bekech, c'est que j'ai repéré parmi les non-négationnistes certains qui sont tellement actif dans l'anti-révisionnisme ici, on n'y comprend plus rien. Mais je dis bien, si en Turquie, vous dites le génocide arménien a existé, eh bien vous prenez 15 ans de prison. Alors voilà pourquoi...
La vie va devenir compliquée là, d'un seul coup. Hein.
La vie a toujours été compliquée, Serge, tu le sais bien. Alors voilà pourquoi le premier rassemblement, je demande aux auditeurs de Radio Courtoisie, et puis j'en profite, le 1er mai, le matin, dans la distinction qui m'est chère avec le cortège de nos amis du Front National, Chrétienté Solidarité, mais dans la plus grande amitié, ferme, vient après ce cortège et défile donc pour honorer Jeanne d'Arc, la sainte de la patrie. On a bien besoin de Jeanne d'Arc d'ailleurs aujourd'hui.
9h30, place du Châtelet, c'est bien ça Bernard. Bonsoir.
Oui, 9h30, place du Châtelet.
Un mot sur l'action contre les guignols de l'info.
Oui, alors écoutez, Serge, vous qui êtes membre du conseil d'administration de la DRIF et beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie en sont, c'est un grand succès de soutien que nous obtenons. Nous n'arrivons pas à traiter tous les mails qui nous arrivent, tous les coups de téléphone qui nous arrivent. C'est une immense indignation et je crois que la DRIF a été bien dans son rôle de réagir immédiatement. Je suis heureux que les évêques, le lendemain, aient saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais enfin, l'action a eu lieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'excuse qu'il ne va pas avoir à rendre des comptes devant la justice. Donc, nous allons poursuivre devant la justice les patrons des guignols de l'info, parce que nous ne poursuivons pas le malheureux Georges Frêche pour ses propos. C'est un bouffon, il est maintenant au-dessous de M. Dieudonné, mais nous poursuivons en revanche la télévision Canal+.
Bien, bah écoutez, en tout cas, on sait que la porcherie vient de s'accroître d'investir supplémentaires.
Voilà.
On avait
puis
déjà.
Un petit mot, Serge, oui. Juste sur la question du référendum. Comme tous les citoyens de ce pays, j'ai reçu le texte de cette soi-disant constitution fatra, mais je sais qu'on va en parler excellemment peu après moi, mais il y a quelque chose qui me chagrine. Je n'ai pas lu à ce jour, peut-être cela m'a-t-il manqué, qu'il y avait un recours intenté contre le texte explicatif sur le référendum, qui est tout simplement de la propagande en faveur du oui. C'est absolument hallucinant. Lorsque nous disions, nous, que nous étions dans une voie de soviétisation, eh bien nous y sommes, parce que c'est vraiment, on ne fait même pas ça dans les républiques bananières, dans les républiques africaines. Donc on demande aux Français de voter, et on leur dit pourquoi ils vont voter. Le texte qui accompagne cela, donc je dis combien cette Europe qu'on prépare avec ce projet de constitution va être plus solidaire, va faire qu'il y ait moins de chômage, plus de paix, plus de progrès, etc. Toute baliverne que je démonte ce mois-ci dans la revue Reconquête, 70 boulevard Saint-Germain. Mais enfin, alors là, je pose la question publiquement aujourd'hui, je compte m'assurer dans les heures qui viennent, est-ce qu'un parti politique a l'intention de procéder au recours qui s'impose. Je compte consulter pour moi nos avocats sur le sujet.
Merci Bernard-Anthony. À très bientôt d'ailleurs,
à
samedi.
Au revoir.
Au revoir. Donc, Madame Garraud, ces choses étant dites, vous publiez un livre qui s'appelle « Oser dire non à la politique du mensonge ». Alors,
c'était avant le commencement de la campagne.
Voilà, ça, oui. Donc il n'y avait pas de problème de parité dans ce cas-là. Alors, c'est un livre collectif,
oui,
dont les différents collaborateurs sont...
Participants.
Pardon, c'est vrai que c'est un mot...
Non, mais parce que je trouve que nous sommes tous à part égale dans ce livre.
Oui, mais enfin, quand même, il est préfacé par vous et votre marque.
Mais ceux qui ont participé à la rédaction de ce livre sont des personnalités qui n'ont pas besoin de chaperon.
Alors, en tout cas, ce sont des personnalités qui viennent d'horizons très différents, parce qu'on voit Madame Marie-Françoise Bechtel, qui est plutôt à gauche, disons le mot. On voit également Max Gallo, qui n'est pas à droite. C'est un républicain, est-ce qu'on peut dire un nationaliste républicain, il va se choquer peut-être, je sais pas.
Non, mais je veux dire, je crois que ce problème de l'Europe, précisément, une des caractéristiques et une des raisons pour lesquelles il est si mal abordé depuis des décennies, c'est qu'il traverse tous les partis politiques. Il traverse tous les partis politiques et depuis longtemps, mais spécialement depuis que, je vais peut-être vous choquer, la notion droite-gauche a perdu ce qu'elle avait de plus radical, disons dans les années 60. Ce qui caractérisait la gauche à ce moment-là, au moment où il y a eu le Front commun, en 72, quand il y a eu le Front commun de la gauche, c'était que la droite se caractérisait, la droite pompidolienne par exemple, qui n'était pas une droite marquée comme, se caractérisait par, il y a ceux qui acceptent de travailler avec de gouverner avec le Parti communiste, qui est le point d'appui stratégique d'une puissance étrangère, et ceux qui n'acceptent pas de gouverner avec le Parti communiste. À partir du moment où le stalinisme s'est effondré, le mur de Berlin s'est effondré en 89, il est évident que ce clivage-là a perdu beaucoup de sa gravité au sens étymologique du terme. Et il est non moins évident que le problème qui se pose à nouveau dans toute sa clarté depuis les années 80, début des années 90, c'est celui de la nature de la construction européenne, qui réapparaît dans la clarté dans laquelle il était à tout à fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, quand Spaak disait au général de Gaulle, vous verrez faire l'Europe des États, nous voulons faire un État confédéral. Voilà. Le clivage est là. Il y a ceux qui veulent construire l'Europe à partir des États, c'est la conception du général de Gaulle, qui est, je crois, une conception démocratique, puisque les États sont l'incarnation démocratique de la volonté des peuples, et il y a ceux qui, à l'instigation d'ailleurs plutôt de Jean Monnet que des pères fondateurs, considèrent que les politiciens sont des gens absolument incontrôlables, que les peuples sont capables des pires bêtises. Et il faut reconnaître que les gouvernements de la Troisième République et la quatrième n'ont pas donné l'exemple d'une vertu gouvernementale à l'abri de la critique, et que par conséquent, le gouvernement des peuples doit être fait d'une manière beaucoup plus rationnelle. C'est un gouvernement d'oligarchie confié à ceux qui savent, essentiellement les juristes et les économistes. Alors, ce sont deux conceptions radicalement différentes et absolument antinomiques. les États et la démocratie qui s'incarnent en eux, une oligarchie compétente et à l'abri des versatilités d'une opinion publique et celle des peuples. Et elles sont inconciliables. Elles sont inconciliables et elles ont émergé ou disparu selon essentiellement les gouvernants. Quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, il a ratifié, enfin il a mis en exécution le marché commun qui venait d'être signé. C'est d'ailleurs sa politique économique et financière qui a permis qu'il soit mis en œuvre. Sans ça, il n'aurait pas été possible de la mettre en œuvre. Mais il a, pendant le temps où il gouvernait, écarté les dérives fédératives ou fédérationnistes, si je puis dire, du traité de Rome. Pompidou aussi, en tout cas, il a voulu le faire, même si il a posé un acte qui a eu des conséquences autres, qui était la rentrée de l'Angleterre dans le marché commun. Et il l'a fait en partie pour ça. Il l'a fait pour deux raisons. La première, c'est qu'il considérait que l'Angleterre serait un élément anti-fédératif et que par conséquent, ça le conforterait, cette voie-là, en face de la politique allemande, et surtout si l'Allemagne serait unifiée, et il pensait qu'elle se réunifierait. Il pensait par conséquent que le couple franco-anglais, étant un couple opposé à la construction d'une Europe fédérale, le renforcerait en face de la politique évidemment fédérative de l'Allemagne. On fait toujours l'Europe à son image, à son ressemblance. Et deuxièmement, mais c'était un peu subalterne par rapport à cette analyse, il pensait que il n'était pas mauvais qu'il ne soit pas dans une confrontation binaire avec l'Allemagne sur l'aspect monétaire, et que le franc et le mark dans une confrontation binaire, il préférait un système ternaire qui permettait de jouer d'alliance et de contre-alliance.
Quand vous évoquez la position de Pompidou, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, vous parlez de la position qui était la vôtre à l'époque, puisque vous étiez
faisiez partie des conseillers, mais vous savez, Pompidou était un très fidèle disciple du général de Gaulle, notamment pour la politique étrangère, parce que c'était le domaine où il avait été le plus imprégné par le général de Gaulle. C'était le domaine où il était moins formé par son passé à gouverner. C'était donc le domaine où il avait été le plus imprégné. Et donc, il a absolument et scrupuleusement voulu maintenir ça, que de surcroît il adhérait parfaitement. Alors, à partir des années 80-75, il faut bien le dire, il n'y a de mystère pour personne que Valéry Giscard d'Estaing partage tout à fait l'autre perspective européenne. C'est un fédéraliste. On peut être fédéraliste. On a le droit. C'est pas absurde. Et donc, ça a réémergé. François Mitterrand aussi. Alors, il y a eu l'acte unique.
François Mitterrand était fédéraliste. Mais vous pensez vraiment?
Je pense surtout qu'il était internationaliste. Mais ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il est... Enfin, pas compliqué, mais il était internationaliste. Le Parti Socialiste était internationaliste, hein, c'est de fait. Et il était, je crois... Enfin, il pouvait être président de l'International Socialiste au moment où il a été élu. De surcroît, il y a certainement eu pour François Mitterrand, spécialement au moment de Maastricht, la nécessité d'avoir une politique de rechange par rapport à la Maison commune européenne à laquelle il avait songé en liaison avec Gorbatchev. Je crois que François Mitterrand, qui n'était peut-être pas socialiste avant de devenir président de la République, mais qui s'était converti au socialisme comme à une religion, c'était un homme d'église finalement, François Mitterrand, d'église sans doute plus que deux fois, mais d'église. Et c'est une charge qu'on ne peut pas porter si on n'est pas adossé à quelque chose qui puisse être une religion. Il est donc devenu socialiste, et il a voulu faire la France socialiste d'abord, et après il a voulu faire l'Europe socialiste. La Maison commune européenne gorbatchevienne, c'était ça, et c'était en quelque sorte la perspective d'une réconciliation à l'échelon de l'Europe, qui aurait été un retour un peu au socialisme d'avant le congrès de Tours, c'est-à-dire entre un socialisme humaniste et un marxisme débarrassé des scories staliniennes. Alors cette politique a échoué, cette perspective a échoué avec Gorbatchev, et par conséquent la politique de rechange, ben, il y en avait deux, comme toujours dans ces cas-là, se rapprocher de l'Angleterre ou se rapprocher de l'Allemagne. Il s'est rapproché de l'Allemagne.
Ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est quand même que on a l'impression que l'Europe
Et depuis, on dérive.
Voilà, c'est ça. Mais avec toujours cet affrontement entre ce qu'on pourrait appeler une Europe stalinienne,
Non, 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 non.
Et, l'Europe, je veux dire, l'Europe stalinienne, c'est l'Europe qui se construit un peu comme l'Union soviétique s'est construite, c'est-à-dire autour d'une constitution, puisqu'on parle de la constitution, qui ne sera qu'un chiffon de papier, qui ne servira qu'à justifier des positions qui sont des positions autoritaires. Et en face de ça, une Europe des nations, vous voyez pas?
À mon avis, pas du tout, parce que la Russie stalinienne était une Russie de pouvoir. Elle avait été construite par la force, ou combien? Bon, et surtout, le pouvoir existait.
Mais de bureaucratie, surtout.
Oui, mais la bureaucratie était soumise au pouvoir. En tout cas, le pouvoir existait. C'est pas la bureaucratie qui a construit une armée, qui s'est dotée de la force nucléaire, etc. Tandis que je pense que l'Europe construite à partir de l'économie et du droit, ça n'est pas une Europe. Le droit et l'économie n'engendrent pas la puissance. Ce sont des disciplines d'ordre. Ce sont pas des disciplines de pouvoir. Et par conséquent, l'Europe, disons fédérale, fédérative, supranationale, tout ce qu'on voudra, elle est absolument antinomique d'une Europe stalinienne, car c'est une Europe de la technocratie mais pas de pouvoir. L'Europe que l'on construit en ce moment, elle n'a aucun pouvoir. Il suffit de regarder d'ailleurs. Elle ne pèse en rien. Elle pèse en rien. Simplement, elle décharge le pouvoir et décharge les États du pouvoir.
Il y a un paradoxe.
Même si ce n'est pas sa fonction principale.
Si cette Europe ne pèse rien, si elle n'a aucun pouvoir, après tout, pourquoi pas? Pourquoi voter non à une constitution qui ne changera rien finalement?
Parce que, écoutez, je crois que il aurait fallu, pour qu'elle se construise d'une manière démocratique, que les peuples acceptent de rentrer dans un État commun européen, quelle qu'en soit la forme juridique précise. Mais c'est-à-dire, il y a un État quand un peuple accepte de constituer sa nation en État. Or, les partisans de cette politique, notamment M. Valéry Giscard d'Estaing par exemple, c'est parfaitement bien que les peuples d'Europe, car il n'y a pas un peuple, mais il y a des peuples, les peuples d'Europe n'ont absolument pas l'intention de se fondre en un État, sur lequel d'ailleurs, je le dis dans le livre, ils ont des idées totalement divergentes. Bon. Mais lui pense que ce serait mieux pour les Européens s'ils étaient constitués en État. C'est un modèle qu'il a construit comme étant un modèle heureux, bon, salutaire. Puisque les peuples ne veulent pas le faire, eh bien, il faut les y contraindre. Et comme on ne va pas les contraindre par la force, on va en quelque sorte les piéger. On va les faire rentrer dans un système qui est un système étatique, plus ou moins bâtard, plus ou moins bien bâti, mais qui est un système étatique par plusieurs aspects, et en particulier par sa contrainte juridique. Ce texte qu'on nous propose, il est absolument immodifiable. Et quand les peuples seront dedans, il faudra bien qu'ils s'organisent d'une manière ou de l'autre. Et comme nous a dit Valéry Giscard d'Estaing, ils en ont pour 40 ans. Alors en 40 ans, ils vont bien s'organiser et ça finira par être un État. Je crois que c'est ça, la logique de la politique qui est actuellement menée par les partisans de cette Constitution. Voilà. Et c'est une logique qui, à mon avis, est vouée à l'échec.
Si vous voulez bien, je voudrais parler des hommes.
Oui.
Parce qu'il y a une grande question.
Lesquelles?
Qui se pose. Giscard et Chirac, puisque en l'occurrence, c'est eux qui sont en cause. Giscard comme auteur de la Constitution et Chirac comme défenseur de cette Constitution aujourd'hui. Or, vous êtes
Monsieur
la dernière
Giscard
personne
d'Estaing
au monde.
N'a pas dissimulé qu'il considérait qu'il était le meilleur défenseur de cette Constitution.
Je crois qu'il pense qu'il est meilleur en tout, d'ailleurs, mais enfin, c'est une
autre. Enfin, spécialement sur cette Constitution qui est sonnée.
Mais vous êtes la dernière au monde vous êtes la mieux placée au monde pour savoir que Jacques Chirac a signé en 1978 ou 19, j'ai un petit doute, un fameux appel de Cochin que j'ai republié récemment parce que ça c'est un appel à voter non absolument lumineux,
incontestable.
Et moi la question que je me pose sur le plan humain, c'est qu'est-ce qui peut inspirer à un homme comme Giscard, qui est tout sauf un imbécile, ça c'est absolument certain, l'idée d'une constitution qui est un véritable piège, vous l'avez dit. Est-ce que c'est de la méchanceté du calcul?
Non.
C'est pas un intérêt
non,
politique.
Non, mais je vais vous répondre. Écoutez, je l'ai déjà cité, alors je peux le reciter. Quand Valéry Giscard d'Estaing a présenté sa constitution au Parlement européen, il l'a présentée dans une enceinte qui est un peu plus restreinte, qui s'appelle la conférence des présidents. Or, il se trouve que j'étais à la conférence des présidents puisque j'étais non inscrite au Parlement européen. J'étais déjà représentée les non inscrits. Et la question lui a été posée. Monsieur le président, vous savez très bien que ce texte n'est pas une constitution, pas une vraie constitution. Alors, faites une vraie constitution. Faites une vraie constitution fédérale, si vous voulez. Et puis, on la soumettra au vote. On verra bien qui la vote et qui ne la vote pas. Il faut quand même qu'on sache, parce que les peuples sont prêts à faire ensemble et ce qu'ils ne sont pas prêts à faire ensemble. Réponse de Giscard. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'Europe fédérale possible depuis que nous avons dépassé le chiffre de 6. Et vous savez bien que ce que les peuples sont prêts à faire ensemble, c'est un marché commun, la suppression des frontières intérieures et quelques politiques communes, rien de plus. Alors, on lui a dit, mais dans ce cas-là, vous voulez faire, si nous comprenons bien, pour les peuples d'Europe, quelque chose que vous estimez bon et dont ils ne veulent pas, ou du moins pas en cœur. Il a répondu exactement. C'est la définition parfaite de l'oligarchie. Parfaite. Bon, il pense que c'est bien. Le point de savoir s'il a raison ou tort, de toute manière...
Secondaire. Oui.
Non, mais c'est pas secondaire, mais de toute manière, dans la vie humaine, on ne fait jamais la preuve contraire. Bon, c'est évident. Mais c'est un raisonnement, je dirais, d'intellectuel mathématicien, qui est parfaitement décrit. Nous sommes trop faibles. Si on se met avec d'autres, nous acquérons la force par la nombre et la masse. À mon avis, ça se passe peut-être comme ça en mathématiques, et encore pas toujours, puisque 20 fois 0, ça fait toujours 0, mais enfin, bon. Mais en tout cas, c'est pas comme ça en politique. Il y a des États minuscules. Regardons le poids que pèse Israël dans la vie du monde, regardons le poids qu'a pesé la Jordanie, regardons ce que pèse la Corée, regardons ce qu'on fait, etc. Bon, c'est donc pas juste politiquement. Mais il le pense. Et il sait que les peuples ne le veulent pas. Alors, il voudrait que ce modèle réussisse. C'est le savant qui a fait un modèle. Les bêtes rentrent pas dans le modèle. Il faut donc qu'ils rentrent dans le modèle pour que le modèle marche. Et cette constitution, c'est le moyen qu'il a trouvé. La convention qui a été convoquée au sommet de l'Aiken, au Conseil européen de l'Aiken en 2002, si mes souvenirs sont bons, elle n'était pas du tout faite pour faire une constitution. Elle était faite pour mettre les traités en ordre. Je cite la phrase « sans en modifier le sens ». Mais je crois, en y réfléchissant, que Valéry Giscard d'Estaing a très bien senti d'entrée de jeu le parti qu'il pouvait tirer de cette convention. Et c'est pour ça qu'il a voulu la présidence. Car dès qu'il a été président, il a pris dans ses références premières au travail à faire la convention de Philadelphie. À tel point qu'on lui a fait remarquer qu'il y avait quand même une légère différence, parce que la convention de Philadelphie était constituante et que celle-là n'était pas constituante. Il avait d'ailleurs fait une réponse intéressante. Il avait dit, c'est exact, il faudra prévoir des positions, des possibilités de sortie. Par conséquent, je crois qu'il l'a tout à fait présent en permanence dans la tête cela. Et alors, bon, il fallait mettre le traité en ordre. Ça a été fait, c'est la troisième partie. Et puis, on a chapeauté ce texte d'une cinquantaine d'articles qui ont l'air d'une constitution, enfin qui ont l'air d'articles constitutionnels, si on ne rentre pas dans le détail, et on a donné à l'ensemble de ce texte une force constitutionnelle, ou du moins, en général, on dit qu'une constitution doit être modifiable. Mais en tout cas, on a donné une intangibilité et une durée telle que, encore une fois, on fait rentrer les peuples dedans et il faudra qu'ils s'organisent. Ils veulent pas faire un État, ils vont être obligés de le faire. Et je crois que c'est toute la finalité de cette affaire. Toute la finalité de cette affaire, me semble-t-il.
C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Effectivement, ça ouvre des horizons. La deuxième question, c'est...
Je pars des propos de Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, j'entends bien. Je vois bien que c'est pas... ça n'est pas un raisonnement
non,
développé
mais je
à
me
partir
suis même
de rien,
trompée, parce que après le dialogue sur l'échange de vues sur etc., je m'étais dit, au fond, en regardant ce texte, c'est un texte qui désagrège les États. Ça, c'est clair. Il les désagrège surtout par deux moyens. Le vote à la majorité qualifiée, parce qu'un État minoritaire est un État inutile. Et comme je dis parfois, les peuples supportent tout sauf un État inutile. Hein. Ils peuvent supporter n'importe quoi, mais pas l'impuissance. Deuxièmement, par un aspect qui est peu connu, mais qui, à mon avis, absolument déterminant, c'est la communautarisation du droit. Parce que le droit européen, c'est pas le droit anglo-saxon, c'est un droit protestant, luthérien, et on est dans l'éternelle querelle qui dure depuis deux siècles entre Boutmic et Jelinek. C'est d'ailleurs parce que nous sommes trouvés convergés sur cette affaire que nous nous sommes rapprochés avec madame Françoise Bechtel. Et il est évident que ce droit qui n'est pas du tout, qui introduit des rapports sociaux tout à fait différents de ceux auxquels nous sommes habitués, est un élément de désagrégation,
va,
en tout cas pour les pays latins.
De toute façon, ça va choper là-dessus. Je pense pas que les peuples du Sud soient prêts à accepter.
Attendez, mais je suis désolé, si c'est leur droit, ils l'acceptent. Bon, c'est comme ça.
Enfin, vous savez qu'on est quand même déjà sorti de situations qui étaient des situations
établies. Ça, c'est autre chose, mais je dis voilà. Que ce texte a été fabriqué pour désagréger.
Il veut
désagréger les États, et il pense que lorsque les États seront désagrégés, les peuples monteront sur le radeau Union, parce que ce sera le seul élément qui naviguera. Et en fait, je m'étais trompée. Il a été beaucoup plus rapide que ça. Le texte n'est pas fait pour attendre qu'ils montent. On les fait monter dedans et on ferme la porte. Voilà.
Ça peut s'appeler le radeau de la Méduse, ça peut aussi s'appeler le Bounty, parce que
on a fermé la porte.
C'est ça que je voulais.
On veut fermer la porte.
Est-ce que vous ne craignez pas que, enfin, est-ce que vous ne craignez pas, ou est-ce que vous ne pensez pas que, à force de forcer les gens, il y a un moment où on ne pourra plus, parce que les gens vont résister.
C'est le danger. C'est pour ça personnellement, moi qui étais un peu retiré de ces choses, c'est pour ça qu'on a fait ce livre. Vous avez dit, nous sommes d'origine très diverse, et finalement. Nous n'avions pas songé, mais plus on regarde le texte, on se dit que c'est pas possible parce que c'est probablement la dernière fois. C'est probablement la dernière fois. Bon, parce que quand on y sera là-dedans, on y sera bien. Et vous savez, c'est toujours plus facile de ne pas rentrer dans un piège que d'en sortir. Demandez aux ragondins.
Oui. Hein,
bon, et vous verrez comment ils peuvent sortir des pièges. Ils peuvent pas sortir. On ne peut pas sortir d'un piège. C'est très difficile. C'est fait pour aller en avant. C'est pas fait pour sortir en recul. Bon, voilà. Et c'est pour ça que cette affaire est extrêmement grave, à mon avis. Même Maastricht était modifiable. La preuve, c'était un basculement majeur. Et bon, mais au moins c'est modifiable. Là, non.
Maintenant, le deuxième personnage dont je voudrais que vous nous parliez, c'est le personnage de Chirac. Qu'est-ce qui a pu amener cet homme de Cochin à la Constitution ?
Le temps qui passe.
C'est doux.
Tout est dit.
À votre avis, qu'est-ce qui va se passer si le non passe ? Parce que vous commencez votre préface pratiquement là-dessus, en disant on nous annonce les pires catastrophes. Il y a quand même une phrase que je voulais lire avant, pardon. C'est la phrase que vous mettez en exergue. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour le mensonge. C'est un portrait, non ?
Oh non, pas du tout. Non. C'est parce que je cherchais une citation. Je trouvais que La Fontaine, c'était. J'aime bien citer La Fontaine. Et c'est vrai que. Alors, c'était avant la campagne. Je parlais plutôt du mensonge du traité lui-même. Mais depuis que la campagne est commencée, merci mon Dieu, nous sommes servis en termes de mensonges.
Parce que les menteurs, c'est les colporteurs de mensonges.
Je suis effaré du nombre de contre-vérités qu'on peut entendre. Enfin, je citais sur une autre antenne. Enfin, on nous dit, par exemple, il n'y a plus de directive. Forcément, ça s'appelle des lois cadres. C'est la même chose. Bon, on nous dit... qu'est-ce qu'on nous a dit ? Oh, il y aura un droit de pétition des Européens. La Commission n'est même... Ça veut dire qu'un million et demi d'Européens peuvent se réunir, c'est archi facile, et envoyer
une pétition... Venant de 15 pays différents...
Ils peuvent envoyer un texte à la Commission. C'est très bien, c'est possible. Après tout, il y aura quelques dizaines de millions, centaines de millions d'habitants. Mais la Commission n'est même pas obligée de l'examiner. Non seulement elle n'est pas obligée de répondre, mais la Commission sera saisie, point.
Eh bien, pardonnez-moi de revenir à mon obsession, mais ça, c'est stalinien. Parce que rappelez-vous ce que disait Marchais quand on lui disait, si vous étiez au pouvoir, plus personne ne pourrait éditer. Et Marchais disait, mais si, vous pourrez éditer si vous trouvez un éditeur. Eh bien là, c'est pareil, vous pouvez pétitionner si vous trouvez quelqu'un pour lire votre pétition.
Non, mais il y a une différence. C'est que, à mon avis, Staline, il avait un certain pouvoir, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Eh bien, je ne pense pas que le président du Conseil européen soit comparable à Staline, si vous voulez mon avis.
Parce qu'il y a forcément quelqu'un dans un appareil de pouvoir.
La technocratie. Je l'ai dit, il y a trois... Bon, qu'est-ce qui caractérise une constitution ? D'abord, la séparation des pouvoirs. Il y a un exécutif, un législateur et un parlement. Là, vous avez trois exécutifs. Le Conseil européen, qui se réunit tous les trois mois. Le Conseil des ministres. Je voudrais savoir combien de Français... savent la différence entre le Conseil européen et le Conseil tout court. Enfin, c'est ridicule. Enfin, il y a même beaucoup de juristes qui ne le savent pas. Le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui se réunit tous les trois mois pour donner les grandes impulsions et n'a aucun pouvoir législatif. Bon, c'est lui qu'on va couronner d'un président qui est censé être le visage de l'Europe, comme nous a dit Giscard. Bon, il sera en effet que le visage, puisque l'organisation qu'il préside n'est pas permanente et n'a pas de compétences propres. Bon, en fait, il sera l'espèce de directeur de cabinet. Après ça, vous avez un conseil des ministres qui se réunit selon les circonstances quand il y a un sujet particulier à traiter, qui lui est un exécutif. Il peut décider. Mais il ne peut décider qu'avec la Constitution, qui elle est permanente, qui est comportée exclusivement de fonctionnaires, la Commission, exclusivement de fonctionnaires, qui est le centre de l'organisation, elle est gardienne des traités, elle a l'initiative de tous les textes. Aucun texte ne peut être examiné ou voté par le Parlement s'il n'émane pas de la Commission, et son accord doit être donné pour que tout texte législatif ou tout acte exécutif soit pris. De surcroît, on lui délègue les pouvoirs exécutifs. Autrement dit, elle est toute puissante. Bon, mais dans la confusion la plus totale. Alors, où est le pouvoir? Celui qui a le plus de pouvoir, c'est le président de la Commission. Parce qu'il préside cette réunion permanente, un peu législateur, un peu exécutif, pas judiciaire, mais bon. Et en plus, il est membre du Conseil européen et il participe au Conseil des ministres. Bon, c'est lui qui a le plus de pouvoir. Mais ceci dit, c'est pas un pouvoir décisionnel. Quand vous présidez une assemblée de fonctionnaires, quelque compétent qu'il soit, ce n'est pas un pouvoir politique. Il n'y a pas de pouvoir politique. Il y a un pouvoir administratif, il y a un pouvoir gestionnaire, mais il n'y a pas de pouvoir politique. Et le pouvoir politique ne naît pas de l'accumulation du pouvoir administratif.
Est-ce que votre expérience dans le...
C'est pour ça qu'il se trompe. Il pense que ça va venir comme ça. Ben non.
Est-ce que votre expérience politique, l'expérience acquise au plus haut niveau...
Non, à côté du plus haut niveau.
Oui, pour être à côté du plus haut niveau, il faut être au plus haut niveau.
Non.
ne vous a pas convaincu qu'au fond, en France, depuis très longtemps, c'est un tout petit peu la même chose. Moi, j'ai connu peu de ministres, mais le seul discours que j'ai entendu tenir par tous ces ministres, c'est « je ne peux rien faire, c'est mon directeur de cabinet, c'est le patron de mon administration qui commande ».
Mais ça prouve qu'ils ne sont pas de bons ministres, ça dépend. Même des gens qui ne passent pas pour des staliniens, je me souviens d'Edgar Faure, qui avait un secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale, et voilà comment celui-ci a appris qu'il n'était plus secrétaire général. Edgar trouvait qu'il était un peu encombrant. Alors, au vœu, il a salué monsieur un tel, je ne le nommerai pas, qui est irremplaçable et qui en conséquence ne sera pas remplacé.
Oui, mais un Edgar Faure par génération. Un Edgar Faure par génération. Je reviens à ma question. On a un peu dévié, mais vous écrivez « Allons-nous un peu de calme, si le nom l'emporte, les orages ne se lèveront pas et l'Union européenne ne cessera pas d'exister ». C'est vrai qu'une des armes des whists consiste à dire les arbres vont cesser de pousser, non. Les fleurs vont sécher
d'abord,
sur pied.
D'abord, il faut être clair, si ce traité est voté, il s'applique dans 3 ans, pour commencer. Hein? Bon, il ne s'applique pas tout de suite. Il n'y a pas prévu d'application tout de suite, à tel point d'ailleurs qu'il y a des protocoles qui prévoient la manière dont seront répartis les droits de vote en attendant qu'ils s'appliquent, parce qu'entre-temps, il y a quand même des pays qui rentrent. Alors ça mélange un peu tout. Bon. Donc il ne s'applique pas tout de suite. Et on est donc dans le traité de Nice, on y reste. De toute manière, traité ratifié ou pas, jusqu'en 2007. Bon. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences, bien entendu. Mais en ce qui concerne la situation juridique et factuelle, elle est inchangée jusqu'à 2007, point. Bien entendu, de toute manière, il y aura d'autres États qui ne ratifieront pas. La Hollande, probablement, tous les sondages le montrent. Certainement la Grande-Bretagne, sauf si elle essaie de se défiler en disant qu'il n'y a pas lieu de faire un référendum, trop contente, s'il y en a d'autres qui votent avant. Mais peut-être même la Pologne, et peut-être d'autres. Bon, mais en tout cas, la Hollande est un membre fondateur, hein, absolument comme la France. Ça fait donc 2 États fondateurs. Il est absolument exclu qu'un nouveau traité puisse être négocié sans que 2 des membres fondateurs de l'Union européenne soient au centre du jeu. Et puis, je vais vous dire, on est au centre du jeu quand on a dit non. Si j'osais, je dirais toutes les femmes le savent depuis des millénaires. Ah, bon, vraiment, on ne se souvient que de celles qui disent non. Bon, c'est quand même, comme il y a 53% de femmes dans ce pays, je ne vois vraiment pas comment elles peuvent penser le contraire. Quand vous tenez les cartes en main, on ne peut rien faire sans vous, eh bien, ça se paye. Bon, ça se paye.
Ça, il faut connaître une chose, c'est ce que De Gaulle a toujours...
Mais Bobert, voyons, quand je pense qu'on ose se prétendre gaulliste et dire, mais qu'est-ce qu'on fera, on sera tout seul, etc. Mais enfin, c'est invraisemblable, c'est absolument invraisemblable. Quand on pense que De Gaulle, condamné à mort par les autorités, qui se prétendait légitime par de son propre pays, a envoyé des gens se faire tuer, c'est-à-dire que s'il avait perdu, il fabriquait des traîtres, non seulement lui, mais les autres. C'est une autre responsabilité morale que de se dire qu'on est obligé de suivre les avis de son parti quand c'est le pays qui est en jeu. Enfin, quand même, reprenons un peu de souffle, me semble-t-il.
Quand vous écrivez...
Je voudrais dire, ce qui m'inquiète pour la négociation d'après, c'est de savoir comment on va négocier si on commence à dire avant qu'elle s'ouvre qu'on ne peut pas négocier. Or, c'est très exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Vous savez, c'est comme un joueur de poker qui dit, vous êtes, voilà mes cartes sur la table, j'ai même pas une paire de 10, alors vous comprenez, je la pose là, mais on fera ce qu'on pourra avec le reste, quoi. Bon.
Mais c'est exactement la même chose à propos de la Turquie. C'est-à-dire qu'on nous dit, on va négocier.
Non, la Turquie rentrera.
Il n'est pas question de discuter le fait qu'elle finira par rentrer.
D'ailleurs, M. Powell nous l'a dit la semaine dernière. Il a parlé des frontières de l'Europe et il a dit, bon. Les Turcs sont pas si chauds que ça pour entrer dans l'Union européenne. Bon, moi, j'ai d'excellentes relations avec les Turcs et l'ambassadeur de Turquie à Paris, qui est un homme tout à fait remarquable. Et je crois qu'il ne dissimule pas que la Sublime Porte a toujours eu une diplomatie particulièrement efficace quand elle était entre l'Europe, le Moyen-Orient, le Caucase, la Méditerranée et l'Espagne. Ils le savent très bien. Bon, ceci dit, il y a une pression considérable des États-Unis pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe, pour plusieurs raisons. La première, c'est le pétrole, c'est le trajet du pétrole. Il y a qu'à regarder où passent les oléoducs, et on comprend pourquoi il y a eu la guerre du Kosovo et pourquoi leur entrée la Turquie doit rentrer dans l'Europe. C'est d'une clarté limpide. Oui, oui. Bon, et deuxièmement, le fait qu'il faut plus ou moins que l'OTAN recouvre l'Union européenne et l'OTAN se recouvre. Par conséquent, les États-Unis ont décidé que la Turquie rentrerait en Europe et ils mettront tout leur poids pour que la Turquie rentre en Europe. Alors, moi, je veux bien, mais je veux bien qu'on s'y oppose. Mais pour qu'on s'y oppose, il faudrait qu'on ait, à mon avis, un peu plus de muscles qu'on en manifeste en ce moment.
Vous allez dire que je m'occupe trop des gens, mais c'est vraiment le seul sujet qui m'intéresse réellement. Comment expliquez-vous la décision de faire un référendum? Parce que c'était
faut poser la question au président de la République.
Je ne sais pas s'il voudra venir dans mon émission, c'est ça le problème.
Essayez.
Je sais pas si j'ai très envie de l'inviter en plus.
Ça prouve que vous n'avez pas cette curiosité.
Donc vous n'avez pas d'explication au fait qu'il a décidé de faire un référendum.
J'ai lu dans la presse, mais c'est absolument tout ce que ça vaut, que il est... Bon, d'abord, ça a été réclamé d'une manière très forte, hein, par beaucoup. Par l'UMP, etc. Bon, donc il était en effet assez difficile de l'éviter. D'ailleurs, Mitterrand ne l'avait pas évité, lui non plus. Et puis, à ce moment-là, le oui était très largement gagnant, mais la crise était ouverte, et s'est ouverte très vite au Parti Socialiste. Par conséquent, il n'était pas invraisemblable de penser que ça poserait pas de problème à la majorité actuelle, mais que ça en poserait au Parti Socialiste. Ça peut être une des raisons. J'en sais rien.
Quand vous écrivez que d'arrogance et de condescendance chez ces politiciens qui se prétendent démocrates, ne sentent-ils pas que leur impatience, leur insistance, leur solennité creuse, les éternelles et ridicules menaces brandies faute d'arguments, porteraient à elles seules les gens de bon sens à refuser de suivre le chemin où l'on veut les pousser? C'est quand même accablant pour la classe politique.
Mais attendez, on a déjà eu ça à Maastricht. Écoutez, souvenez-vous, les mêmes choses, la croissance, l'emploi. Giscard nous a dit, l'euro assure la croissance et l'emploi.
Bravo.
Bon, alors il a dû se produire des petites choses entre temps. Bon, mais souvenez-vous, si on ne votait pas Maastricht, c'était absolument l'apocalypse. L'Europe était arrêtée. D'ailleurs, on a perdu toute mémoire. Et la CED, et l'affaire de la CED. Vous vous souvenez de cette bataille absolument acharnée qui a duré 2 ans. Bon, c'est autre chose que les 2 mois du référendum. Ça a duré 2 ans. Et c'est intéressant parce que les hommes qui ont empêché la ratification de la CED, c'est 2 hommes qui n'étaient pas de même couleur politique. C'est Madès et De Gaulle. Oui, par conséquent, ça n'est pas un problème partisan, cette affaire. Mmh. C'est un problème de gens qui considèrent que l'État est le lieu du pouvoir démocratique, parce que c'est là où s'exprime la volonté du peuple, et ce sont les États qui peuvent donner à une union une réalité politique, parce que seuls la tiennent, cette réalité politique-là. Et alors que dans un système oligarchique, il n'y a pas de réalité de pouvoir, donc elle ne peut pas être captée, puisqu'il n'y en a pas. Elle se perd, si je puis dire, entre l'État qui en est dépouillé et l'union qui ne la recueille pas. Ça tombe dans le trou noir du néant technocratique.
Alors, pour ma part, je vais vous poser une dernière question, après en donnant la parole aux auditeurs, et je pense que vous ne répondrez pas à cette question, mais je vous la pose quand même.
Histoire de passer le temps.
Oui. pensez-vous que les sondages qui donnent à l'heure actuelle le nom en tête sont des sondages sérieux ou des sondages de manipulation? Et quel est votre pronostic?
Moi, je ne fais jamais aucun pronostic sur une élection, surtout sur une élection aussi... nouvelle que celle-ci. Enfin, d'abord, c'est pas une élection précisément. Sur une consultation aussi nouvelle que celle-ci. À Maastricht, j'en savais à peu près. Les gens qui auraient voté normalement non, c'est-à-dire le centre droit, des gens qui se sentent toujours perdus, s'ils sont pas dans un truc grégaire, la pensée d'être seul leur donne des cauchemars la nuit, ils ont voté non parce que c'était Mitterrand qui le proposait. Puis à gauche, il y a une gauche très nationale et très nationaliste. Il suffit de regarder en ce moment. Les meilleurs débatteurs, entre nous, parmi les meilleurs débatteurs, c'est Besancenot et
Buffet.
Bon, et je le dis à votre antenne, c'est un pied au moins, ils connaissent le traité. Hein, bon.
On en parlait il y a deux minutes, on disait effectivement.
Eh bien, cette gauche-là a voté oui parce que c'était Mitterrand. Et là, on assiste à un reclassement. On assiste à un reclassement, mais en même temps aussi à une expérience. Parce que les discours qui ont été tenus au moment de Maastricht, on les retrouve, mais identiques. Identiques. Alors tout de même, les gens sont un peu mitridatisés. Ils se disent, j'ai déjà entendu ça quelque part. Hein. Et de surcroît, moi je crois beaucoup à l'instinct des peuples. Je crois beaucoup à l'instinct des peuples, comme à celui des enfants. Il y a un moment où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que c'est faux.
Ils ne veulent pas monter dans la voiture du monsieur qui leur propose un sucre d'or.
On sent que c'est faux. Hein. Ils ne montent pas dans la bétaillère parce qu'ils se disent que ça doit aller à l'abattoir ce truc-là. Hein. Bon, on ne sait jamais où ça va en tout cas. D'ailleurs, vous savez, si moi je devais donner un argument... Est-ce que vous signez quand on vous propose un contrat que vous ne comprenez pas? Non.
Bon,
et quand on vous propose quelque chose que vous ne comprenez pas, il ne faut pas signer. Généralement, il y a un piège. Mais même s'il n'y a pas de piège, il ne faut quand même pas signer, parce que ça prouve que le contrat ne vaut rien, puisqu'il n'y a pas de contenu.
Enfin, je vous remercie. On va donner la parole aux éditeurs. Avant, je voudrais vous demander... Vous savez que Radio Courtoisie organise chaque année une signature, une fête du livre qui aura lieu cette année 5 juin, c'est-à-dire juste après le référendum. Mais je voudrais vous demander si vous accepteriez de venir... Alors, peut-être pas pour ce livre, peut-être pour un autre livre que vous...
Je n'ai pas l'intention d'écrire un autre livre.
Vous n'avez pas l'intention d'écrire un autre livre. Non. Vous ne voulez pas écrire vos mémoires. Tout le monde les attend avec impatience.
De toute manière, même si je le faisais, je ne serais pas écrite pour le 5 juin.
Écoutez, vous êtes invité donc, à cette fête du livre. Je pense que nos auditeurs seraient très contents de vous rencontrer. On va passer le Bobineau, d'ailleurs, qui invite non seulement Marie-France Garraud, mais tous les auditeurs à venir à cette fête du livre. Et ensuite, si vous voulez, on donnera la parole aux auditeurs.
Dimanche 5 juin, fête de la courtoisie. À Eurocite Austerlitz, dimanche 5 juin, de 10h à 19h, des centaines d'écrivains qui se sont exprimés sur Radio Courtoisie vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux à offrir, des livres dédicacés. Venez à la rencontre de ces auteurs et de toute l'équipe de Radio Courtoisie qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 5 juin, fête de la courtoisie, Eurocite Austerlitz, 32 quai d'Austerlitz, Paris 13e, métro Gare d'Austerlitz. Entrée 15 euros. Entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents. Pour nous écrire, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Alors, quel bonheur d'entendre Madame Marie-France Garraud, cet esprit si brillant qui fit peur, qui fait peur à la médiocratie. Merci Monsieur Beketch. Le grand démocrate et progressiste Alain Minc, milliardaire, a qualifié de vérole démocratique la possibilité donnée aux Français de s'exprimer par le référendum sur la Constitution. Qu'en pensez-vous, Madame Garraud? Et qu'aurait-on entendu si cela avait été un homme de droite qui avait proféré cette infamie?
Oh, je crois que M. Minc ne réserve pas ses paradoxes à la droite ou à la gauche. Il en est un dispensateur généreux.
Excusez-moi. excusez-moi de reprendre le mot d'un petit peintre autrichien de l'entre-deux-guerres, mais ne pensez-vous pas que la soi-disant Union, soi-disant européenne, est une ploutocratie ?
Écoutez, j'aime pas beaucoup les mots qu'on plaque comme ça sur quelque chose. J'ai essayé de m'expliquer tout à l'heure sur ce qui me paraissait être la gestation de cette affaire.
Vous parlez de l'hiérarchie, si j'ai bien entendu.
Oui, parce que ça, c'est l'oligarchie, c'est le gouvernement de quelques-uns. Mmh. Or, justement, c'est une oligarchie technocratique. Ça fait beaucoup de mots compliqués, mais c'est quand même exactement ça.
Que pensez-vous de ce qui a été dit à l'émission d'Yves Calvi, à laquelle participait Jacques Attali ? Il a déclaré à une jeune intervenante que, dans une trentaine d'années, de toute façon, nous aurions un gouvernement mondial.
Oui, c'est d'ailleurs, c'est tout à fait... j'en ai dit un mot dans ce livre, c'est la négation de la spécificité de l'État. Et c'est toute la ligne, il n'y a pas que lui qui dit ça, c'est aussi ce qui est dit par un des inspirateurs de la Fondation pour l'innovation en politique, qui a été fondée par Jérôme Monod, Monsieur Ewald, je crois, ou Ewald, quelque chose de genre. Bon. Qui en effet lui aussi parle du gouvernement mondial, et c'est pas une idée neuve, hein, ça traîne depuis longtemps, et ça oublie la spécificité de l'État, c'est-à-dire qu'on considère que les collectivités sont équivalentes les unes aux autres, que la commune, le département, l'État, la région, l'Europe, le monde, tout ça c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. C'est pas pareil pour des gens, en tout cas, qui sont des démocrates. Parce que, encore une fois, l'État, c'est la collectivité dans laquelle s'exprime la volonté nationale. Et donc, d'où naît le politique ? Le politique ne naît pas comme ça en génération spontanée. Il naît de l'expression de la volonté des peuples. Enfin, c'est bien la définition de la démocratie. Je pense bien que M. Attali est démocrate, au sens le plus philosophique et politique du terme. Par conséquent, lorsqu'on a l'importance à l'expression populaire et à la manière dont elle s'exprime, comme dit d'ailleurs, je crois, la déclaration de 1789, la souveraineté populaire s'exprime dans l'État. Je n'ai plus la citation exacte de la nation dans l'État. Par la nation dans l'État, nul ne peut en disposer qui n'en ait, nul corps ni individu ne peut en disposer qui n'en émane expressément. Voilà. Eh bien, c'est ça là, l'État. Et par conséquent, l'État n'est pas une collectivité comme les autres. C'est une collectivité spécifique qui est absolument indissociable de la démocratie et indissociable de la souveraineté populaire. Par conséquent, l'idée qu'il puisse y avoir un État mondial est une contradiction dans les termes.
Seriez-vous d'accord, nous dit cet auditeur, pour dire que la Constitution européenne propose une aristocratie technocratique compensée par des garde-fous démocratiques ?
Oui, la technocratie est forte et les garde-fous sont faibles.
Un auditeur, quelle est la position des autres pays européens à l'égard de la Constitution européenne, comme par exemple le Danemark, la Suède, la Tchéquie et l'Autriche ?
Oh bien écoutez, c'est très divers. D'abord, parlons d'abord de la Grande-Bretagne, qui a quand même pris la précaution de se protéger de tout ce qui pouvait la gêner. Elle n'est pas dans la monnaie unique, elle n'est pas dans la politique sociale, elle n'est pas dans l'accord de Schengen, et de toute manière, les Britanniques n'appliquent que ce qui est voté à Westminster. Par conséquent, comme ça, au moins, ils sont tranquilles. Bon, le Danemark, comme vous le savez, a voté non. L'Irlande avait voté non sur le traité de Maastricht. Le Danemark, semble-t-il, est prêt à faire la même chose. La Hollande aussi. Ça dépend. L'Allemagne, c'est tout à fait différent, puisque l'Allemagne, elle est au centre de l'Europe et par conséquent, elle est un pouvoir politique, l'Allemagne. C'est un État. Et pour l'Allemagne, l'Union peut être un moyen, un retour à l'élargissement de son État. C'est ça toute la différence.
Un auditeur, dites-nous s'il vous plaît, si en cas de victoire du non, la France peut, au plan économique et social, faire face aux défis actuels du mondialisme.
Écoutez, je pense qu'on ne peut pas faire... C'est une question intéressante, parce que j'ai eu il y a quelques jours au téléphone Monsieur Allais, qui vous savez, prix Nobel d'économie, et qui était dans un état extrêmement furieux. Parce qu'on nous a dit, par exemple, que tout ça n'avait rien à voir avec la Constitution, mais bien sûr que si. Puisque dans le traité, il y a même un article très particulier, qui est l'article 314, l'article 314, c'est dans la troisième partie. Alors, politique commerciale et commune de l'Union. L'Union contribue dans l'intérêt commun au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction de barrières douanières et autres. En plus, c'est le autre qui est intéressant, parce que ça veut dire tout ce qui est normatif, qui tient à l'environnement, etc., etc. Par conséquent, alors vous me direz que cet article est repris des traités antérieurs. C'est vrai, mais puisqu'on faisait un nouveau traité, on aurait peut-être pu, compte tenu des problèmes que pose la concurrence mondiale, précisément depuis que la Chine y est entrée, parce que tout de même l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, elle est relativement récente, il est absolument évident que des pays comme les nôtres ne peuvent pas être compétitifs dans un libre-échangisme mondial tel qu'il est en train de s'instaurer. Mais on est toujours en retard de plusieurs trains. Alors, les États-Unis se protègent, sont toujours protégés, mais se protègent de plus en plus, le Japon aussi, et nous, nous ouvrons. Nous ouvrons d'une manière totalement indifférenciée. D'ailleurs, pendant le temps que j'ai passé au Parlement européen, je n'ai jamais entendu prononcer le mot de producteur. J'ai entendu prononcer le mot de consommateur. Les choses sont faites pour les consommateurs. On avait même envisagé à un moment de faire le statut du consommateur. Moi, je voudrais savoir quel est le citoyen qui n'est pas consommateur. Qu'est-ce que c'est qu'un consommateur? Ça n'a pas de sens, si vous voulez, mais c'est très révélateur. Par conséquent, je crois que, pour répondre à la question précise, je crois que, je ne sais pas si en votant non et si en n'ayant pas ce texte, on sera mieux protégé, mais je pense que si on veut tout et que dans ce texte, on sera encore moins bien protégé. Alors ça, c'est clair. Pour le reste, c'est un problème de décision à prendre. N'oublions pas quand même que l'Union, le marché commun, est né pour coordonner l'action d'une zone homogène et que le marché commun était protégé. Il ne s'agit pas de faire un protectionnisme idiot, mais tous les grands groupes se protègent. Les États-Unis se protègent, le Japon se protège, tous se protègent. Nous, non. Il n'y a plus, avec ce texte, il n'y a plus aucune protection.
Il y a deux choses. D'abord, il n'y a plus de protection, mais il y a aussi, c'est la négation même du génie propre des peuples. Parce qu'à partir du moment où on considère que n'importe qui peut faire n'importe quoi, la concurrence peut jouer sur tout, non, ça n'a pas de sens.
On peut prendre des exemples illimités. Il y a le textile, tout le monde en sait. Mais il y a tout. Il y a des pommes chinoises dans les bagues des supermarchés en France. Alors, évidemment, les
elles sont pas terribles, hein.
Elles sont peut-être pas terribles, mais elles sont à moins d'un euro.
Elles sont pas chères, voilà.
Bon, tandis que, et même à l'intérieur de l'Europe, il y a des vergers où on paie, par exemple, en Allemagne en ce moment, je ne travaille aucun secret en disant que dans les vergers, on pèse les ramasseurs 5 euros de l'heure parce que ce sont des Roumains qui viennent et que nous, c'est 11 euros. Bon, eh ben, c'est pas possible, c'est tout, c'est pas possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est impossible. Regardez les prix agricoles. Bon, regardez les prix agricoles français. Ils sont supérieurs à tous les prix mondiaux, sauf pour le cochon. Oula, la crise du cochon a fait que pour des décennies, on est en dessous des prix mondiaux. Pour tout le reste, ils sont au-dessus des prix mondiaux. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Ou on protège d'une certaine manière par un marché protégé, ou alors on déclare qu'il n'y aura plus d'agriculture française. Et il n'y aura plus d'agriculture française.
Ça, c'est décidé depuis très longtemps. Ça.
Pas forcément. Je ne suis pas de votre avis. Il peut y avoir moins d'agriculteurs, bien entendu. Mais il doit y avoir... Vous savez, Pompidou, c'était un homme sage. Il disait, pour qu'un pays soit indépendant, il faut qu'il produise le tiers de son énergie et le tiers de sa nourriture. Et je crois que c'est un principe absolument de bon sens. Si un jour, la Chine bloque ses exportations... on est dépendant des autres. Pourquoi est-ce qu'on a subventionné l'agriculture française au moment où on l'a faite? Parce qu'il fallait nourrir l'Europe. On a oublié ça. L'Europe n'avait rien à manger. Il fallait nourrir l'Europe et on a subventionné l'agriculture française pour nourrir l'Europe. Maintenant, c'est plus ça du tout. On n'est plus dans la même situation. Mais il faut tout de même faire en sorte, à mon avis, qu'un pays comme la France garde une agriculture. Et c'est pas en versant des subventions qui sont découplées de la production qu'on y parviendra. C'est idiot. Et en plus, attendez, moi, je suis un peu lyrique sur ce sujet, parce que moi, je suis exploitant agricole et j'ai reçu les papiers pour la PAC. Alors d'abord, il y a 15 pages, j'écris un petit caractère. Et puis les agriculteurs, les paysans, ils sont pas fous. Ils sont encore moins fous que le reste de la population. Alors quand vous avez sur la page de gauche les conditions de la conditionnalité, ce qui est une expression charmante, c'est-à-dire les conditions à remplir pour toucher la prime. Alors, on vous explique qu'il y a 12 circulaires, 4 décrets, mais je n'exagère pas, c'est vraiment ça. Bon. Page de droite, les contrôles. Alors, on a tous les contrôles, les sanctions des contrôles. Eh bien, ils ont tous compris tout de suite qu'il y avait des primes et une surprise, et la surprise, c'est qu'il n'y aurait pas de primes, parce qu'on ne remplirait pas les conditions de la conditionnalité. Mais enfin, c'est le béaba du métier, à tel point d'ailleurs que le ministre de l'Agriculture a été obligé de se fendre d'une lettre pour expliquer que les conditions, ce n'était pas tout à fait ça, et que les contrôles, ce ne serait pas tout à fait ça. ça instaure une confiance illimitée.
Ça contribue à améliorer l'image du politique dans le peuple, c'est évident. En tout cas, vous contribuez à améliorer cette image d'une façon très brillante, je vous en remercie. On a beaucoup de remerciements, de compliments des auditeurs qui sont enchantés de vous entendre.
Ah bah c'est gentil de votre part.
Et qui sont tous, je dirais, dithyrambiques.
Ouais.
C'est pas une surprise.
Non, c'est pas vraiment une surprise, mais enfin, la réaction des auditeurs est très plus que positive, je dirais.
Vous savez, l'autre jour, je suis allée faire une émission infaisable sur une chaîne de télévision. Émission infaisable, parce que bon. Et alors, je pars et j'ai levé un taxi, parce que c'était impossible de garder ce rang-là. Et mon chauffeur me dit, vous avez enregistré quelque chose? J'ai dit oui, puis j'ai fait une mauvaise émission. J'ai fait une émission, ça passe quand? Il me dit, je lui dis, ben, je sais pas, c'est enregistré. Il me dit, vous avez fait une mauvaise émission et vous restez comme ça? Il me dit, enfin, écoutez, c'est pas admissible. Si vous faites une émission, vous la faites bonne, vous devriez retourner. J'ai téléphoné. On m'avait proposé de la refaire. Bon. Je suis revenue, j'ai dit, je suis désolée, mais c'est mon chauffeur de taxi qui m'a dit, et vous n'avez pas le droit de faire une mauvaise émission.
C'est ce qui s'appelle être à l'écoute du peuple.
Oui. Merci beaucoup, Marie-France Garraud.
Une question encore.
Une dernière question, parce que...
Avec cette constitution, que devient la force nucléaire française? Qui a le pouvoir de la mettre en œuvre?
Écoutez, d'abord, je vous conseille fortement de lire ce livre aux éditions du Rocher, parce que c'est un peu compliqué de dire. Mais il est évident qu'à partir du moment où toute décision touchant la politique et la politique étrangère et la politique de défense d'un État membre doit être prise en concertation avec les autres États de l'Union, est-ce que vous imaginez qu'une dissuasion nucléaire puisse être établie en concertation avec 24 autres pays? C'est absolument... Bon, c'est en fait bien pire que ce que je vous dis, parce que je pense que cette organisation de la politique étrangère et de la politique de défense, mais spécialement de la politique étrangère, elle est faite au fond pour aboutir à transférer suavement et discrètement notre siège permanent aux Nations Unies à l'Union. Ça ne sera pas fait officiellement, parce que quand même, ce n'est pas possible compte tenu du statut de l'organisation des Nations Unies. Mais en revanche, à partir du moment où le représentant français, en cas de position unique, doit défendre la position de l'Union et pas celle de la France, on arrive à un siège qui est celui de l'Union, de facto, sino de jure. Et tout le monde sait que c'est la revendication première, essentielle de l'Allemagne, et certainement une des raisons de l'affection manifeste du chancelier vis-à-vis de la France, en tout cas manifestée, puisqu'il a été dit au Bundestag, expressément par un député du Bundestag, que l'accord franco-allemand était très important et qu'il était exact qu'il serait renforcé si la France acceptait de partager son siège. Ça a été dit au Bundestag.
Serge, trois tout petits commentaires. J'ai vu à la télé l'arrivée de l'A380. Les pilotes sont sortis de l'avion et le premier pilote qui a été interrogé s'est exprimé en anglais. Bonjour l'Europe. Et puis, on n'arrête pas à la télé de parler de réussite européenne à propos du
A380.
Eh bien, l'Europe n'est pour rien.
Non, absolument.
Et puis,
une alliance industrielle.
Non, mais attendez, l'Europe, non, mais je veux dire, c'est vrai que la coopération,
actuelle,
etc., mais le général Gallois, vous invitez ici à une annoncée parfaitement. Il dit quand on n'était pas intégré, quand on était coopérant et pas intégré, on a fait la Caravelle, Airbus,
oui,
Concorde,
sûr,
Ariane, porte-avions, etc. Et depuis qu'on est intégré, on n'a pas été fichu de faire voler un avion. Bon.
Et puis, alors, l'Alliance pour la souveraineté de la France, Bernard Chalumeau, son secrétaire général, et tous les souverainistes français...
Je déteste ce mot.
Ça ne fait rien. Ils vous adressent tout de même leurs chaleureuses félicitations pour votre remarquable exposé où tout est dit.
Mais je les remercie beaucoup, mais j'aime pas le mot. J'aime pas le mot, je ne sais pas pourquoi.
Où peut-on, non seulement pour le livre, mais où peut-on vous joindre?
Par téléphone? Enfin, on peut m'écrire quand même, c'est plus simple.
Oui, c'est ça, si vous donnez votre téléphone. Alors là.
Donc, vous avez une adresse,
oui,
je peux vous écrire, dites-moi. Alors,
votre collaboratrice a failli s'évanouir d'un seul coup.
Oui, non, on peut m'écrire. On peut m'écrire à l'adresse de Géopolitique, l'Institut de Géopolitique, 27 Quai Anatole France. Paris 7e.
Et puis surtout, on peut lire Oser dire non, parce que d'abord, c'est
à la politique du mensonge.
À la politique du mensonge.
Oui,
pardon, je suis un peu. C'est vrai, que autrement, on va tomber sous le coup de.
Non, mais parce que c'est tout de même le fond de ce livre. Hein. Chacun dans notre secteur, on s'est aperçu qu'on nous racontait des cracks.
oser dire non à la politique du mensonge. D'abord parce que c'est d'une écriture remarquable. Il n'y a qu'à voir les collaborateurs. Enfin, pardon, les
auteurs.
Les auteurs. J'y tiens à ce moment.
Les co-auteurs.
Ça doit cacher quelque chose. Marie-Françoise Bechtel, qui est donc agrégée de philosophie.
Jacques Calvé.
Ancien directeur de l'École nationale d'administration.
Oui.
Ça, c'est bon, on peut, mais enfin, voilà.
Elle a écrit un papier parfaitement révélateur. Moi, j'avais absolument pas vu le problème et le poids de la charte dans cette affaire est.
François-Guilhem Bertrand, professeur agrégé des facs de droit, Jacques Calvet, Alain Cotta, professeur à l'université de Paris-Dauphine, Jean Foyer, Max Gallo, le général Gallois,
Jean-Jacques Rosa,
Jean-Jacques Rosa, Gabriel Robin et Christian Greff qui sont ambassadeurs de France l'un et l'autre.
Oui, Christian Greff a parlé sur la Turquie parce que précisément c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière d'ambassadeur dans cette partie du monde et qui donc n'est pas, si vous voulez, par rapport à la Turquie, dans un truc échevelé sur les minarets, etc. quoi. Bon, je veux dire, c'est une analyse très profonde et très intelligente et très sympathique d'ailleurs de la singularité de ce grand pays qu'est la Turquie et en particulier du fait que tout de même c'est une puissance largement asiatique. Il y a tout de même des populations qui parlent turcophones à l'est de la Chine.
C'est paru aux éditions
c'est paru
du Rocher.
C'est paru aux éditions du Rocher. Ça vaut 13 euros, 13 francs. Mmh. Je m'arrange pas. 13,90 €. Et ça s'appelle, je le rappelle, Oser dire non à la politique du mensonge. Préface de Marie-France Garraud, que je remercie encore une fois d'avoir bien voulu venir nous apporter ses lumières sur ce référendum étrange et obscur et sur une constitution que, je crois, personne n'a lu, probablement même pas ceux qui l'ont écrite. Oh. Merci, Madame
Garraud. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.
Voilà, alors ça s'appelle un blanc, parce que je dois donner un mot à Madame Garraud qui nous a été communiqué par un auditeur, je ne sais pas ce que c'est.
Quelqu'un qui vous demande votre avis sur l'émission de France 3.
Alors, je me tourne maintenant vers Pierre Descaves. Pierre, vous êtes.
Je suis ébahi,
engagé.
Moi.
Ah ben, oui, hein,
là. Je suis émerveillé par la manière dont Madame Garraud a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait fait ce livre et demandé que l'on vote non à ce référendum. Moi, je suis sur un tout autre plan, je vous dis tout de suite. Moi, je suis un homme d'action. Vous êtes plus une femme de réflexion, mais moi, je suis plus un homme d'action. Et d'ores et déjà, j'ai déposé une plainte devant la Cour de justice de la République contre M. Raffarin, M. Sarkozy, M. Hollande, M. Bayrou, et les partis politiques UMP, PS, UDF pour avoir violé un article fondamental du nouveau code pénal qui est l'article 410.1 du code pénal. Ceux qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Il s'agit, les intérêts fondamentaux de la nation sont au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de l'environnement. Lorsque l'on lit tout ce que la Constitution française est devenue à travers ce qu'on veut nous faire adopter le 29 mai, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien. La République, comment peut-on être en République alors qu'on a six royaumes qui font partie des 25? Comment? Est-ce possible? Je ne sais pas, je comprends pas. Deuxièmement, le territoire. Qu'est-ce que c'est que ce territoire dont on ne sait pas quelles sont ses limites? On ne sait pas. Et en plus, on sait qu'elles vont évoluer au fur et à mesure des temps. Donc, il n'y a pas de territoire non plus. Donc, on abandonne. L'indépendance, où est l'indépendance? Quand on a délégué à l'Europe la totalité, pratiquement, des pouvoirs souverains que détenait le peuple. C'était le peuple qui était souverain. C'était pas M. Chirac, M. Valéry Giscard d'Estaing. Eux, ils ne sont que des représentants du peuple dans la mesure où on les élit. Et d'ailleurs, on a l'exemple que les élections se font en alternance. Tantôt c'est quelqu'un, tantôt c'est un autre. alors que le peuple, lui, est toujours souverain. La souveraineté du peuple depuis 1789 est permanente. Et on nous l'enlève aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on l'enlève au peuple. Eh bien, moi, je n'accepte pas. Et je pense que beaucoup des citoyens français, s'ils voulaient vraiment se battre, eh bien, ils devraient se joindre à cette plainte. Sur le site de France Résistance, j'ai donné un modèle de requête à faire pour s'y joindre. Alors là, j'appelle, moi, homme d'action, tous les Français qui veulent garder la France, qui veulent garder la patrie française, la nation française et l'État français, je les invite à se battre. Il ne s'agit pas seulement de voter non, il s'agit de faire tout ce qu'il faut pour que le non l'emporte et qu'on on renvoie ces minables politiciens traîtres à leur patrie, qu'on les renvoie chez eux.
Alors, vous avez donc déposé cette plainte, Pierre, auprès du Conseil constitutionnel
de la Cour
de justice de la République, pardon.
La République.
Et vous avez reçu l'accusé de réception.
Oui,
elle est donc enregistrée.
La plainte est enregistrée. Elle est sous le numéro 05-82-82. Donc la plainte a été réceptionnée et maintenant elle va être instruite par 7 magistrats de la Cour de cassation, des hauts magistrats, ce qui nous laisse penser qu'il y aura une certaine indépendance politique. Moi, j'ai été pendant 44 ans auxiliaire de justice, comme expert près de la Cour d'appel de Paris. J'ai fait 40 ans de droit pénal financier. J'ai la plus grande confiance dans les magistrats, malgré que je constate qu'il y a des décisions qui sont assez incompréhensibles. Mais je crois que dans l'ensemble, quand ils ont quelque chose de sérieux, ils se prononcent souverainement et indépendamment des pressions. Je suis persuadé, donc j'attends qu'on examine cette requête qui comporte 10 pages. Elle est fortement motivée par en prenant la Constitution, les textes du Code pénal un par un, plus un texte du Code civil parce que j'estime qu'il y a un complot et que le complot nécessite la violence. Or, la violence n'est définie que par le Code civil. Et donc, je donne aussi un article du Code civil qui définit la violence, qui n'est pas seulement physique, mais qui peut être morale. Or, quand on voit tous ces politiciens du oui, qui nous disent, si vous votez pas oui, il va vous arriver les pires malheurs, vous allez être ruinés, vous allez plus avoir de pouvoir pour rien, la France n'existera plus. Mais ça, c'est une pression morale, ils veulent me faire peur.
On a l'impression de revoir un épisode du film des Monty Python, c'est quand les faux prophètes sont sous les murs de Jérusalem et qu'ils annoncent et vous perdrez vos objets personnels et vos les poils de vos oreilles pousseront, etc.
Tu vois, mystérieuse de temps en temps.
Donc, le monde va périr.
Exactement ça, et d'ailleurs ils font un saut de surenchère. À chaque fois que vous en entendez un, c'est un malheur de plus qui va nous arriver. Comment on va s'en sortir
Le meilleur moyen que Raffarin aurait d'obtenir satisfaction, c'est de dire si vous votez non, je reste Premier ministre.
Oh, c'est pas le pire, Serge, sincèrement, c'est pas le pire. C'est un brave homme qui est sous la coupe d'un traître, parce que moi je prononce le mot traître parce que je pense qu'il l'est. Quelqu'un qui ne permet pas à son pays de survivre, qui le livre à l'étranger, pour moi c'est un traître. Et un jour ou l'autre, d'ailleurs, il y aura une libération et j'attends que ce jour-là, il y ait des cours de justice qui se constituent par le peuple, qui aura été trompé, trahi, volé. Enfin, ils ont tout fait, hein. Eh bien, ce jour-là, j'attends qu'il paye.
Avant que 90 coups de téléphone tombent sur nos standardistes bénévoles, je précise que le site dont parlait M. Descaves tout à l'heure se libelle exactement france-résistance.com.
Non, il y a 3 W.
Oui, mais ça, c'est toujours.
Ah bon.
Ça se fait automatiquement. Vous savez, si vous allez sur un site seule fois, vous verrez que votre machine affiche les W ou HTTP tout seul.
Donc c'est bien ça. France-résistance. France.com. Et là, vous aurez tout, vous avez les raisons pour lesquelles il faut voter non, vous avez... Enfin, vraiment, et y compris d'ailleurs, parce que moi j'estime que on ne doit pas faire de, avoir une attitude dans cette affaire sectaire. Tous ceux qui demandent de voter non et qui donnent des arguments valables sont repris sur notre site. Nous ne faisons pas d'exclusives envers la gauche, la droite. Tous ceux qui disent quelque chose d'intéressant, c'est porté sur notre site.
Écoutez, il y a quand même un vieux principe, c'est quand on vous demande votre avis, il faut d'abord dire non. C'est un principe fondamental de la liberté individuelle.
Là, c'est un non raisonné, Serge. Excuse-moi. Sincèrement, moi, je me bats depuis 1954 sur toutes les causes possibles et imaginables. Les petits commerçants avec Poujade, après les petits industriels avec le SNPMI. J'ai accueilli les rapatriés du Maroc, de Tunisie, avant d'avoir ceux d'Algérie avec l'Enfanoma. Je me suis battu pour l'Algérie française, ça tu le sais. Et aujourd'hui, je suis révolté parce que je sens qu'il y a une indifférence dans le pays, une passivité.
Ah, je crois que les gens
on a l'impression que les gens sont à mort.
Les Français sont gavés de mensonges, de crapuleries, de canailles.
Et je crois sincèrement que s'ils ne se réveillent pas, mais ils vont à la catastrophe. Parce que le oui, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de défense à l'intérieur d'une nation. Ça devient indéterminé, on ne sait pas qui.
Alors, on va suivre cette initiative qui est très intéressante parce que, bon, il faut lire la plainte qui est un modèle du genre. D'ailleurs, c'est tricoté avec une astuce et une intelligence exceptionnelle. On voit quand même que, avec quelques années de pratique du droit derrière vous, mon cher Pierre. Et vous viendrez nous parler des rêves suffisamment grands, qui est le livre que vous venez de publier aux éditions du Alpha.
D'Eterna. Vous brûliez.
Qui est la suite, qui est la suite de la guerre des immondes, dans la même veine. Mais je dois dire, alors là, je parle en éditeur, petit professionnel de l'édition, sur le plan de l'édition, le progrès est tout à fait remarquable. Parce que le premier, c'était amusant à lire, c'était bien, mais la présentation était un petit peu amateur. Voilà, je dis les choses comme je vois. Et ça, c'est un vrai bouquin. Et c'est drôle comme tout à lire. C'est pas seulement drôle, c'est intelligent et révélateur. Et on en reparlera d'ici 15 jours, 3 semaines. Hein, on fera de toute façon une émission avant le 5 juin pour que les auditeurs se précipitent à la fête du livre pour se faire dédicacer.
Vous aviez reçu Monsieur Descaves pour La guerre des immondes.
Oui. Oui,
le premier.
Il me semblait que vous ne l'aviez pas dit.
Si,
excusez-moi.
Ah, maintenant, vous êtes puni, Goffman. Allez au coin.
Je voterai.
Et là, il y a une préface de Jean-Claude Martinez, qui est, à la surprise générale, remarquable. Hein, parce qu'il n'est pas totalement bête non plus, le professeur Martinez.
Je suis son délégué général de la ZIREF, alors quand même, c'est bien avoir quelques égards.
Il a dû lui tordre le bras dans le dos pour obtenir une préface.
Et puis, il y a aussi, surtout, je crois, d'intéressant, des dessins de chartes.
Ah oui, puis il y a bien sûr des illustrations. Le dessin de couverture est merveilleux.
Ça explique bien les choses.
Absolument.
Si ça n'est pas chez votre libraire, vous pouvez trouver ce livre, là, Des rêves suffisamment grands, sur Internet, là encore, dualpha.com.
Il faudra vous équiper, chers auditeurs d'Internet. Je sais bien que certains sont réticents, réfractaires, mais même le père Argouache est sur Internet. Alors ça veut dire.
Demandez à vos enfants.
Hein, il sait pas exactement ce que c'est, mais il sait qu'il y est sur Internet. Hein, mon père. Quoi, Internet? Non, je vous expliquerai, Marquis. C'est rien. Ça fait pas mal, je vous assure. Vous verrez. On s'y fait assez facilement. Vous connaissez Pierre,
oui,
le père Argouache.
Bon. Et physiquement, oui.
Alors, mon père, vous avez 4 minutes pour nous dire ce que vous avez à nous dire. C'est-à-dire que d'abord vous allez célébrer votre jubilé, parce que c'est 20 ans, vous savez pas.
Mais 20 ans de sacerdoce.
20 ans de sacerdoce.
Je voudrais rappeler quand même que je suis le rescapé d'une longue colonne de séminaristes qui a été dématée par les hérésies modernistes. Et je crois ce qui m'a sauvé, c'est le père Revet qui m'a dit, tu sais, ne va pas au séminaire, parce que si tu vas au séminaire, tu perdras ta vocation. Donc je préfère que tu n'ailles pas au séminaire. Et c'est grâce au père Revet, à Monseigneur Rupp, à la Providence, à l'abbaye de Foncombeau, à l'Institut de philosophie comparée et à d'autres que je suis arrivé au bout. C'est vrai que le Seigneur appelle, que l'évêque appelle, mais si l'évêque refuse d'appeler parce que vous n'êtes pas dans les normes, eh bien c'est catastrophique. Et je prie et je vais prier dans cette messe de jubilé pour tous ces compagnons qui sont partis dégoûtés et souvent renvoyés des séminaires.
Alors, sauf le respect que je vous dois et que je vous porte, à mon avis, vous avez eu une coupure de communication avec le Saint-Esprit parce que vous avez fait cette fête le 5 juin.
Oui, mais alors je pense
que la meilleure idée de l'année. Hein.
A dû se tromper parce que.
Ah, non, quoi, mais je ne sais pas si j'en ferai
avec un contact direct avec le Saint-Esprit. De Radio Courtoisie que je faisais ma fête ce jour-là. Donc, non, ce qui s'est passé, c'est que la date a été prise beaucoup plus tard par Radio Courtoisie. Autrement, bien sûr.
Ah bon, c'est de notre faute alors.
Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vous qui l'avez dit.
Le pèlerinage de Chartres, vous le faites ?
Je fais le pèlerinage de Chartres cette année.
Lequel ? Parce que moi, j'ai le libre journal sous les yeux, et en page 24, on a deux affiches magnifiques l'une à côté de l'autre, Paris-Chartres, Chartres-Paris.
Non, mais vous savez que certains font des deux pèlerinages,
oui,
c'est-à-dire que...
C'est le même. C'est le même, l'approche
qui se croise. Un jour et demi dans un sens, un jour et demi dans l'autre.
Ah, exactement.
Et je voudrais justement dire que la dernière fois, j'ai célébré la messe pour Jean-Renaud Rigat, à la rencontre des deux pèlerinages, et que je tiens beaucoup, et je ne suis pas le seul, le colonel Vaquier en parlera bientôt à Radio Courtoisie, il faut que les deux pèlerinages se rencontrent, et c'est grâce au chapitre des martyrs de septembre, il y a Jacques Arnoux, que depuis le début...
Oui. Dont vous connaissez la devise le nom secret de ce chapitre-là. Ce sont les cénobites tranquilles.
C'est Jean Nouriga qui a dû trouver ce nom-là, non ?
Non, je soupçonne que c'est quelqu'un ça serait peut-être Raoul, qu'est-ce que je dis ?
Anna Corrette.
Arnoul ou...
Jacques Arnoul.
Oui, Jacques. Je suppose que ça lui ressemble assez, ça.
Donc c'est...
Ou les Anna Corrette, qui est, on pourrait dire. C'est ça que ça veut dire, en fait. Hein. Voilà, bon.
Voilà, donc c'est
alors,
cette rencontre des
14, 15 et 16 mai.
Donc il y a un moment de prière entre les deux pèlerinages pour l'unité des deux pèlerinages. Voilà.
Sous le regard de Jean Nouriat qui est au balcon.
Voilà, exactement, et qui tenait beaucoup à ces rencontres.
Vous avez du monde qui entre à...
Alors d'abord on a un religieux qui vient d'entrer. Vous savez qu'on est une toute petite communauté.
Oui.
On est 10, mais surtout on aura deux frères qui sont à Foncombeau, frère Régis et frère Dominique, qui seront ordonnés diacres fin mai.
On va finir curé, tout ça.
Eh oui, il y aura deux ordinations, si Dieu veut, en 2006.
C'est bien, c'est magnifique. Bien une fabrique de prêtres à Riomont, parce que vous êtes combien de prêtres
maintenant ? Il y aura peut-être plus d'ordinations que pour le diocèse réuni. C'est déjà arrivé une fois. On avait fait un match de football et on avait eu deux ordinations. Et l'évêché avait eu une ordination, donc ça faisait 2-1. On avait gagné. Mais peut-être que ça se reproduira, on ne sait pas encore. Mais c'est très serré. Vous savez, c'est des petits buts. Hein. Oui. Nous, on ne marque pas beaucoup de buts.
Non, mais vous avez un tout petit terrain aussi, tandis
on a un petit terrain, mais qui est bien défendu. Hein. On a un but qui est bien défendu. Hein. Un bon arrière central, j'espère.
Mais alors, je ne sais pas où vous trouvez le temps de faire tout ça, parce qu'en plus, le père Alain vient de publier un bouquin qui est formidable, d'ailleurs, c'est une histoire du scoutisme.
Vous avez un petit peu regardé ?
Ah oui, il est vraiment exceptionnel.
Oui, oui, oui.
C'est un vrai...
Bon, c'est la première fois depuis 40 ans qu'on sort un livre pour expliquer la réforme Pioneer Rangers. Pourquoi les scouts de France ont pris la chemise rouge ? Ça peut paraître un petit peu caricatural de dire ça, mais pas tant que ça, parce que derrière, il y a quand même tout un projet pédagogique qui est complètement différent. Et
il y a une subversion, hein, il faut bien dire les choses, c'est clair. Et puis, ça apparaît d'une façon lumineuse.
Je sais que vous n'aimez pas que je le dise, mais j'ai porté moi-même la chemise rouge au Sable d'Olonne quand j'avais 15 ans. Je rêvais d'avoir une chemise kaki, c'était le retour de l'Algérie. J'avais été à la 4e Angoulême, j'arrive au Sable d'Olonne, c'était le moment de la réforme Pioneer Rangers, et on m'a collé une chemise rouge que j'ai portée une fois.
Avec moi, j'ai porté la chemise noire. Ah ouais, on était raiders, on avait droit à la chemise noire.
Et puis je voudrais remercier ici le journal Monde et Vie, car c'est grâce à un article de Monde et Vie qui était vraiment très très bien fait, qu'on a compris ce qui se passait et quel était l'enjeu de la bataille, au fond. Et puis là aussi, je prierai pour tous ces prêtres qui sont morts de chagrin, tous ces chefs de troupes qui ont été jetés hors de leurs troupes parce qu'ils ne voulaient pas prendre la réforme. Là aussi, il y a une longue colonne de gens qui ont été sabrés, qui ont été dématés, etc. Et dont ces vieux prêtres qui sont morts de chagrin.
Vous faites un CD aussi?
On fait un CD.
Un CD est... choral, alors c'est...
Alors ça, c'est le frère Régis qui a...
C'est pas le fond de l'étang, c'est le...
Qui est très doué, il a... Je crois que c'est mieux que les choristes. Le CD est sûrement mieux...
Forcément.
Oui. Et donc, vraiment, il est magnifique. Il est magnifique, et à la fin, il y a des acclamations carolingiennes, c'est superbe, c'est magnifique, c'est un très très beau
CD. Il est sorti?
Il est sorti.
Vous l'avez apporté, non?
Non, parce que j'arrive du Mont-Saint-Michel.
Ah, bon, c'est bien.
J'étais pas à Riomont, j'étais au Mont-Saint-Michel.
La prochaine fois, il faut la porter, puis on passera, voilà. On passera un extrait.
Hein. Ah oui, ça vaut le coup.
Donc le 5 juin, on est chez vous à Riomont. Enfin, on ne pourra pas y être, puisqu'on est de service à Radio Courtoisie. Vous allez nous manquer aussi, parce que il y a plein de gens qui vont venir me voir en me disant pourquoi le Père Agouache n'est pas là, vous êtes fâché. Je...
Mais
voilà, ça.
Non, mais voilà, ça tombe comme ça.
Le village breton.
Mais c'est beau aussi que dans plusieurs points de France, on continue.
Quand on aura reconquis le pays, on ne pourra pas être tout le temps ensemble.
Voilà, voilà, absolument. C'est formidable.
Le village breton, parce que ça, c'est un autre.
Alors,
vous
ne
faites pas d'inauguration le 5 juin, par hasard, au village breton.
Non, mais on devait faire une plaquette. J'avais promis cette plaquette la dernière fois que je suis passé ici. Il y a du retard. C'est une plaquette de présentation de ce petit village ruiné donc qu'on a racheté. Je veux rassurer ici les 600 bienfaiteurs du village breton. Ça continue. On y travaille beaucoup. En juillet, les troupes scouts, les 4 troupes scouts de Riomont seront là-bas, donc ils peuvent passer en juillet, il y aura du monde pour voir le résultat. Il y a quand même des toits qui ont été faits, des choses qui ont été sauvées, et le village breton, c'est aussi notre espérance.
Et en une minute, comme il vous reste un petit peu de temps, vous vous occupez de l'église?
L'église avance magnifiquement. Elle sera très belle, elle sera une très grande église en roman contemporain. C'est très très beau. Les pierres sont bien appareillées. C'est dans le style que vous connaissez de ce petit village qui résiste.
Ah ouais, c'est village petit village, c'est bien.
Médiéval.
Alors,
mais qui
si
résiste.
Vous n'aimez pas les livres, le 5 juin, vous allez à Riomont. C'est très facile. C'est pas qu'à Riomont, il n'y a pas de livres, mais vous allez voir effectivement ce village qui est à la fois village gaulois, village de Blanche-Neige, c'est un endroit incroyable, incroyable sur une colline. C'est...
Du côté de Béthune, on donne l'adresse?
On va donner l'adresse.
On la garde pour nous.
Le village d'enfants de Riomont, c'est à Liévin.
Liévin, voilà.
L-I-E-V-I-N, c'est tout près de Lens.
Mais on peut faire les deux, les gens peuvent partir la veille au soir pour être auprès du père.
Ah, mais oui, après déjeuner. Oui, c'est à quoi, 2 heures?
C'est à 2 heures, avec une bonne voiture, c'est à 2 heures, sans faire d'excès de vitesse. C'est pas de
avec une mauvaise voiture, c'est beaucoup plus long.
On peut faire les deux.
Pour les sous. Oui, vite, ça, s'il vous plaît, parce qu'on peut participer soit à la construction de l'église, soit au village.
Pour les dons, il faut aller sur les sites. Hein, mm-hmm.
Voilà, donc, comme toujours. Donc,
c'est l'idéal. Moi, je ne sais pas lire, mais
oui, ça,
vous savez sûrement lire.
Il y a très très longtemps. Surpris. Alors, c'est riomont@riomont.net, ça c'est l'adresse, et riomont.net c'est le site. Vous tapez Riomont, riaumont.net, voilà. Et vous allez sur le site, il est superbe. Je me tourne vers Patrick Goffman pour qu'il nous dise combien il est urgent de lire le numéro du Libre Journal qui est sorti ce matin.
Bon courage.
Une minute.
En une minute.
On quitte pas le sujet du référendum, puisque l'illustration donc du numéro qui sort des presses aujourd'hui, 349, c'est Jeanne, bien sûr, celle qui a dit non, vous la connaissez, et puis l'essentiel du sommaire, c'est non à l'Europe fédérale par Jean-Marie Le Pen, non en 5 lettres par Serge De Becketch, non à la dictature oligarchique, non au reniement de nos racines chrétiennes, non à la conspiration des sans-patries par notre signature historique François Brugnon, 5 euros ou un carnet de timbre pour un spécimen, 110 euros pour être abonné un an à ce décadère, 3 fois par mois, 24 pages, toujours à la même adresse, 4 SDB, 4 place 36, 75 010 Paris, le site gratuit c'est francecourtoise.info.
Avec en prime quand même l'appel de Cochin en affichette, en couleur s'il vous plaît.
Et la page 22.
Et la page 22 du Marquis qui est venu, qui n'a pas dit un mot ce soir, pauvre Marquis. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Monsieur, c'était quand même exceptionnel d'avoir Marie-France Garraud. Marie-France Garraud, c'est quand même qui dit non, on a tous compris.
Éblouissant.
Voilà. Alors, je vous souhaite 15 jours agréables. Je ne serai pas là, donc vous serez parfaitement, chers auditeurs, tranquilles. Vous pourrez écouter cette radio sans craindre quoi que ce soit. Et je vous dis à la mi-mai, si Dieu veut, bien entendu, que Dieu nous garde.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie. Pour animer cette heure et demie que nous allons passer ensemble, nos intervenants habituels, Grégoire Gambier, journaliste, Xavier Van Lierde, journaliste et rédacteur en chef de la revue Relève Politique, Patrick PL, journaliste également, qui animera tout à l'heure la séquence troisième demi-heure culturelle, et au micro, votre serviteur, Philippe Christel. Voilà, tout comme d'habitude, une émission en trois parties. La première demi-heure, vous le savez, qui est consacrée aux brèves d'actualité de la géopolitique européenne. Une deuxième partie qui est consacrée à notre invité, et nous traiterons aujourd'hui de questions de défense. Et puis une troisième partie davantage dédiée à l'activité culturelle. Alors on va faire comme dans les grandes émissions de télévision et de radio. Grégoire Gambier, on va commencer par commenter le fait du jour. Alors le fait du jour, c'est quoi ?
Évidemment, le décollage réussi de l'A380 à Toulouse. Alors, on ne reviendra pas sur la confusion volontaire de la plupart des grands médias qui annoncent que Airbus est la grande victoire de l'Europe, sous-entendu l'Europe du traité constitutionnel. Or, tout le monde sait bien que ce n'est pas tout à fait cette Europe-là et que, fort heureusement, Airbus n'a pas dû attendre le référendum du 29 mai pour voir le jour. C'est de la coopération interétatique bien comprise. Donc, à l'occasion de ce premier vol d'essai réussi, on a appris, on sait aujourd'hui que donc EADS, qui est la grande entreprise derrière Airbus, dame le pion définitivement à son rival Boeing, puisqu'en 5 ans seulement, EADS n'a que 5 ans d'existence, cette grande entreprise donc européenne a réussi à faire d'Airbus le premier avionneur mondial avec une part de marché de 57%. Malgré donc la faiblesse du dollar qui pénalise bien évidemment les exportations. Donc on commence cette émission par une bonne nouvelle pour la France et l'Europe et ses industries de pointe.
Et alors pour compléter et pour rester dans l'actualité, nous avons souvent l'occasion dans cette émission de mentionner les diverses tentatives de consolidation des industries de défense européennes, et ceux qui suivent le dossier auront vu que l'État a décidé de reprendre la main dans le dossier Thales. Thales, c'est cette grande entreprise d'électronique qui est une des seules grandes entreprises européennes à ne s'être pas encore rapprochée significativement de d'autres partenaires. Une première option faisait état du rapprochement avec la DCN, la Direction des Constructions Navales. Une deuxième hypothèse était celle justement d'un rachat ou d'une fusion avec EADS. On a vu que c'était l'option qui était défendue par le candidat de l'Élysée, Noël Forjard, qui est le nouveau coprésident de EADS avec son collègue allemand. Aujourd'hui, le patron de Thales cherchait à emmener son conseil d'administration sur une voie davantage indépendante et davantage peut-être franco-française. L'État a décidé de suspendre, a donc voté contre la résolution au conseil d'administration, et donc probablement que l'État nous réserve encore peut-être quelques bonnes surprises. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, aujourd'hui c'est le CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales, dont nous avions parlé la dernière fois puisqu'il avait signé un accord avec ses homologues russes. Eh bien le CNES vient de se voir confirmer un programme d'investissement spatial en hausse par l'État français sur la période 2005-2010. Donc des budgets de la défense ou des budgets de recherche liés aux technologies de souveraineté, tout ça fait d'excellentes nouvelles.
Oui, sur Thales, espérons simplement que ce ne soit pas un vieux réflexe colbertiste français, qu'il y ait bien derrière cette prise de position officielle une véritable stratégie industrielle sous-tendant une vision pour l'Europe puissance de demain. Deuxième bonne nouvelle peut-être, à la fois bonne et mauvaise, mais malgré tout bonne pour la France, là, il n'y a pas de problème, puisqu'on a appris aussi ces derniers jours que la facture énergétique, donc en 2004, l'année dernière, française, avait bondi de près de 25%, donc en raison évidemment de l'explosion du prix du pétrole, mais on pourrait très bien dire aussi que ce n'est que 25% pour la France, parce que l'essentiel de son énergie est nucléaire, grâce à un choix audacieux et particulièrement éclairé des gouvernements français de l'époque, y compris avant De Gaulle bien sûr, dégonflons les baudruches. Donc c'est une bonne nouvelle quand même pour la France, parce qu'elle s'en tire évidemment beaucoup mieux que la plupart de ses partenaires européens et que la plupart des grands grande puissance, la Chine, grande consommatrice, bien sûr, mais les États-Unis aussi, qui viennent de se rendre compte, là, depuis quelque temps, qui repartaient sur une réflexion pour réengager un programme nucléaire, eux aussi. Donc, une fois n'est pas coutume, les gouvernements français ne s'étaient pas trompés. Ils ont eu raison de ne pas céder aux pressions médiatiques, notamment, d'ailleurs, instrumentalisées par les Américains via diverses ONG. Et donc, le choix nucléaire est conforté à l'occasion de la flambée du pétrole.
Et certains États vont même plus loin, puisque l'Allemagne, notamment, qui, elle, n'a pas encore la force de remettre en cause son désengagement de vers l'arrêt total du nucléaire, a décidé de réouvrir des mines de charbon. Et donc, on croyait cette industrie totalement condamnée dans les pays et les économies de la vieille Europe. Eh bien, pour la première fois, donc, une entreprise allemande cherche à réouvrir une mine d'exploitation de charbon.
Oui et non, enfin, puisque quand la Suède, effectivement, là, qui a été plus lâche que la France vis-à-vis des groupes de pression écolo, altermondialistes, donc avait annoncé l'arrêt de la production d'électricité par le nucléaire, quelques années après, elle a dû tout simplement importer évidemment de l'électricité du Danemark, qui produisait son électricité avec des centrales effectivement au charbon. Voilà, soulignons simplement que l'Allemagne a annoncé pour 2019 l'arrêt de la production nucléaire sur son territoire. En 2019, tout le monde aura bien compris, compte tenu des sources d'approvisionnement et de la dangerosité des circuits en cause, qu'évidemment, le nucléaire s'imposera comme la production la plus sûre pour les Européens.
Voilà, alors donc on va fermer ce volet industriel et énergétique. Non, Patrick Péel, vous avez
toujours sur ce sujet, mais là c'est plutôt une mauvaise nouvelle.
Il gâche tout.
Oui, mais ça vient d'arriver. Pendant que l'Europe essaye d'arrêter et avec un certain courage le monopole de Microsoft sur l'industrie informatique, la France elle a décidé de faire autrement. Elle vient de signer un accord avec Microsoft et l'Institut national de la recherche informatique, ce qui fait que les chercheurs sont un peu inquiets parce que c'est premièrement c'est un accord qui va se retrouver où Microsoft va simplement amener 10 millions d'euros, c'est-à-dire que ça représente pour son budget recherche que 0,2% du budget recherche de Microsoft, et va avoir grâce à ça droit à une collaboration avec l'INRIA. Et à ce niveau-là, François Debert veut à tout prix dire que ce genre de partenariat privé-public existe. Alors il nous donne les exemples de l'INRIA avec Thomson ou Philips, ou le CNRS avec Thales. Le problème, c'est que là, on a affaire à une société américaine. Il faut savoir que l'INRIA, il a été créé il y a 20 ans. Il compte 6 unités de recherche, emploie 3500 personnes au total, 2700 chercheurs scientifiques de haut niveau et dispose d'un budget annuel de 135 millions d'euros. Je vois franchement pas ce que Microsoft a gagné là-dedans, à part simplement nous piquer nos chercheurs. Alors bien sûr, la France a souligné qu'il n'y aura dans cette collaboration, il n'y aura strictement rien de commercial, c'est simplement de la recherche de fond.
C'est beau,
c'est sûr que Microsoft a toujours été à ce niveau-là, n'a jamais strictement piqué aucun logiciel au niveau de l'informatique. Donc je pense sincèrement que là, la France, ça vient de faire entrer le loup dans la bergerie.
Bon, nous allons rester dans le domaine du logiciel. Philippe Christel, Abemus Papa, mais vous en réjouissez.
Alors, je sais pas si c'est une question de logiciel ou de loup et de berger, mais effectivement, une des bonnes nouvelles quand même que nous pouvons citer dans cette émission, alors même si on est plus habitué à traiter des sujets de géopolitique, mais est-ce que quelque part l'élection de Benoît XVI ne fait pas partie de ces mouvements géopolitiques qui sont en train de naître un petit peu partout dans le vieux monde et dans le vieux monde européen? Alors évidemment, Benoît XVI, tout le monde connaît maintenant son parcours, puisque la presse française, plus qu'aucune autre peut-être, s'est empressée de nous exposer les dangers putatifs de voir le cardinal Ratzinger se voir remettre l'anneau du pêcheur et devenir le nouveau pape. Nous, évidemment, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que quelque part Benoît XVI n'est pas le représentant le plus emblématique de la vieille Europe, cette vieille Europe tellement décrié au moment des nouveaux enjeux stratégiques qu'on a vus lors de la guerre en Irak, mais qui sont aujourd'hui également dans le débat sur la Constitution européenne. On a donc un pape aujourd'hui, chef de l'Église catholique, qui d'abord est une figure intellectuelle de premier ordre, qui est nourri non pas d'une posture médiatique, mais qui est nourri aux sources les plus sûres et les plus savantes de la civilisation majoritairement européenne. Deuxièmement, c'est un homme qui a, et il le dit dans un certain nombre de discours et dans ses discours de cardinal, puisqu'aujourd'hui il est un peu tôt pour mesurer ses discours de pape, qui est particulièrement conscient des enjeux de la vieille Europe en termes de natalité, en termes de moralité, en termes de dynamique. Il s'est prononcé, il a eu l'occasion de se prononcer sur sa vision de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, et quelque part, contrairement à un mouvement global, je ne vais pas revenir sur l'affrontement conservateur-progressiste, parce que je pense que c'est pas forcément là que l'enjeu était important, c'est que toute le prurit médiatique avait tendance à nous dire est-ce qu'un pape européen ça a un intérêt, sachant que demain tout le monde sait très bien que l'Amérique latine est d'ores et déjà le premier gisement de catholiques, demain ce sera peut-être l'Afrique, et quelque part Benoît XVI vient nous rappeler que ce qu'il a compris, c'est que la force du catholicisme et ce qui dépasse la question purement spirituelle mais ses implications civilisationnelle reste encore clairement au niveau européen, et donc on peut imaginer que mine de rien ce représentant de la vieille Europe soit quelqu'un qui aille renforcer les nouvelles forces que nous voyons en création sur le champ de bataille des idées, mais des alliances, y compris géopolitiques demain. Xavier Van Lien, quel est votre sentiment?
Mais écoutez, je partage tout à fait votre analyse. Si je pouvais la prolonger, ce sera en évoquant le testament politique et spirituel de Jean-Paul II, qui était lui-même une adresse à l'Europe et à la vieille Europe. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que au tournant du siècle et du millénaire, l'Église s'est sentie la mission de revenir à son berceau originel, l'Église catholique, qu'est l'Europe. Dans l'ouvrage de Jean-Paul II, il était question principalement d'Europe, de la crise de civilisation que traversait l'Europe et de la nécessité de la surmonter, non seulement pour l'avenir de l'Europe elle-même, mais pour le monde. Et ce qui est frappant dans non seulement lors des funérailles de Jean-Paul II, mais l'élection de Benoît XVI, c'est que l'Europe est à nouveau apparue comme un phare pour le monde. Les autres continents étaient tournés vers ce phare de civilisation, et en cela, j'en reviens à votre interrogation de départ, oui, l'élection de Benoît XVI est un événement géopolitique, et un événement géopolitique de premier ordre. Si elle produit ses effets, peut-être avec l'aide de Dieu, parce qu'elle sera néanmoins nécessaire, le retour de l'Europe à ses racines antiques serait un événement géopolitique majeur à l'échelle du monde et de l'histoire du monde.
Oui, l'élection de Benoît XVI, évidemment, est une victoire, parce que c'est un soufflet déjà contre la médiasphère qu'on avait bien vu monter, notamment en France, mais pas uniquement en France, pour une fois, sur le thème effectivement de la dichotomie conservateur, moderniste, et sommant, notamment, il y a eu un article du Monde particulièrement révélateur, sommant le successeur de Jean-Paul II, qui n'était pas encore connu, évidemment, on était dans l'entre-deux, de faire les avancées, hein, les avancées que Jean-Paul II n'avait pas voulu faire, notamment évidemment dans Mémoire et Identité, si je ne m'abuse, qui sont donc le livre quasi posthume de Jean-Paul II, dont Yvan Blot a fait une excellente critique d'ailleurs sur le site de Polémia récemment. Bon, donc c'est un camouflet pour la médiasphère, donc c'est une première victoire. Vous allez faire de lire, oui.
Absolument, j'allais dire que cet article de Polymer est excellent, parce qu'il souligne, à l'instar d'ailleurs d'un article publié dans le journal Monde et Vie, à ma connaissance, ce sont les deux seuls qui aient souligné ça, c'est que dans ce livre de Jean-Paul II, le défunt pape souligne que le renouveau de l'Europe passe par une rupture avec les dérives issues, dérives excessives issues de la philosophie des Lumières, et par un retour aux philosophies traditionnelles de l'Europe, ce qui est un message proprement révolutionnaire, au sens propre du terme, c'est-à-dire de retour aux sources.
Oui, donc on ne fera pas, c'est peut-être le deuxième point de cette
Alors
cette
juste avant, on va rappeler quand même les coordonnées du site de Polémia, puis pour les auditeurs qui souhaiteraient s'y référer, donc c'est www.polemia.com. www.polemia.com. Allez-y, Grégoire Gambier.
Voilà, ben le deuxième point peut-être effectivement, alors là sur les valeurs plus ou moins européennes qui sont mises en avant, évidemment je partage pas votre enthousiasme, mais un peu comme souvent, c'est un signe, mais sera-t-il suffisant? On ne peut pas faire de procès d'intention bien évidemment au nouveau pape. Il a plutôt donné des signes de rectitude dans sa démarche, bon, à la fois religieuse bien sûr, mais aussi civilisationnelle. Enfin, par son attachement viscéral à la vieille Europe que nous connaissons, et ce n'est pas innocent que ce soit un pape allemand, d'ailleurs, au moment où les médias, une fois encore, nous sommaient de choisir visiblement un pape plutôt de l'hémisphère sud. Maintenant, peut-être que sa grande mission, peut-être du 21e siècle, c'est peut-être à la limite son défi, si c'est vraiment un pape européen, sa mission, c'est de réconcilier les Guelfes et les Gibelins autour d'un projet civilisationnel porteur pour l'Europe au XXIe siècle.
Alors, les prises de position de Benoît XVI ont trouvé un écho, qui est un écho dans un des pays dans lequel le pape Jean-Paul II n'a pu se rendre et dans lequel il aurait certainement bien aimé se rendre, c'est en Russie, où les valeurs traditionnelles là aussi sont en hausse, puisque lors de son discours annuel à la nation, Vladimir Poutine a fait un bilan assez sans concession de l'état de la Russie d'aujourd'hui. Et puis ce qui est pour la première fois ce qu'il avait déjà fait en creux, mais ce qu'il a précisé, c'est que dans les thèmes récurrents qu'il a rappelé dans son discours, et surtout les citations qu'il a faites, se rapportent à des hommes qui sont antérieurs à l'Union soviétique, puisque celui qu'il a cité longuement, c'est le fameux ministre de Nicolas Ier, le baron Witt, celui qui est entre autres le père du transsibérien, et celui qui l'a suivi, à savoir le ministre Stolypine, Vladimir Poutine, rappelant à ses concitoyens que la Russie allait continuer à se développer comme un État libre et démocratique, et que les valeurs qui devaient prévaler et qui devaient guider cette jeune démocratie étaient les valeurs traditionnelles de la Russie, celles qui prévalaient au temps de l'Empire des Tsars, mais également celles qui étaient en vigueur à l'époque de l'Union soviétique. Il y a donc là à la fois un double mouvement, qui est celui de se reposer sur les valeurs les plus fondamentales d'une civilisation, et également la capacité à assumer un passé fortement contradictoire et fortement générateur de tension ou de nostalgie, et quelque part cette capacité à assumer un passé complet tranche avec la litanie des commémorations de toutes sortes dont les dirigeants de l'Europe occidentale sont abreuvés en ce moment, comme autant de symboles de division qu'il faut entretenir entre les uns et les autres.
Oui, c'est donc le syncrétisme de la démarche qui vous fait passer de Benoît XVI à Vladimir Poutine, si j'ai bien compris, Philippe Christel.
Et l'appel à un certain nombre de valeurs traditionnelles qui fait que on va de plus en plus, et ça commence dans la prise de conscience qu'il y a du racisme anti-blanc dans les défilés, juste dans les défilés étudiants, jusqu'à ce genre de démarche. On commence à se rendre compte que le corpus moral et doctrinal post-68ard commence à s'effriter, et nous sommes évidemment les premiers à nous en féliciter. Ce dont on peut simplement rêver, c'est que cela se traduise en actes sur des notions de puissance, et pour des ensembles qui soient beaucoup plus vastes que nos pays, c'est-à-dire cette grande Europe que nous appelons de nos voeux.
Revenons à l'Italie, si vous le voulez bien, où il s'est passé aussi autre chose, moins importante, hein, je vous l'accorde, mais donc le nouveau gouvernement Berlusconi, qui nous apporte peut-être trois significations, enfin, parce que pas forcément des bonnes nouvelles, mais disons que ce nouveau gouvernement Berlusconi démontre peut-être trois choses. D'une part, c'est que Berlusconi a évité la crise que, une fois de plus, tout le monde lui annonçait, et donc il repousse le spectre d'élections anticipées en juin prochain, et donc conforte, ne serait-ce que provisoirement, le centre droit à la tête de l'Italie. Le deuxième point, c'est peut-être dans l'équilibre au sein de cette majorité majorité polyphonique, c'est peut-être que les velléités de l'AN, l'Alliance nationale, ont été contenues et qu'en revanche, la Ligue du Nord sort confortée de cette crise, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La Ligue du Nord sort confortée non seulement par les portefeuilles directs qu'elle détient, mais aussi par l'entrée de Tremonti, Giulio Tremonti, qui est théoriquement, enfin, en tout cas, qui appartient à l'UDC, enfin aux centristes, mais qui est un libéral sans complexe, lombard d'ailleurs, et très proche de la Ligue lombarde, de la Ligue du Nord. Le troisième enseignement, c'est bien sûr l'entrée de Buttiglione au gouvernement. Vous vous souvenez qu'il devait être commissaire européen et que son catholicisme intransigeant lui avait barré la route de ce poste suprême. Eh bien, on l'a chassé par la porte, il revient par la fenêtre et il récupère la culture, ce qui en soit tout un programme. Et on a l'impression que c'est là aussi un premier effet peut-être de l'élection de Benoît XVI. Allez savoir.
Autres éléments à citer, parce que c'est vrai que nous avons souvent l'occasion dans cette émission de suivre de près ce qui se passe à l'Est et de suivre de près l'ingérence des États-Unis dans les différentes sphères proches de ce qu'était la Russie. Bah, c'est un focus que la presse commence à faire sur l'état de la situation économique de l'Ukraine. L'Ukraine qui avait vocation à être ce nouveau paradis sur Terre, puisque les gentilles ONG américaines avaient chassé les odieux descendants des KGBistes russophiles. Et puis on vient de se rendre compte que, ma foi, l'Ukraine, la situation économique de l'Ukraine ne démarre pas, et que bien au contraire, on s'achemine sur un taux de croissance de 5,4 cette année, alors qu'il était à 12,4 l'année précédente. Et que c'est surtout le spectre des privatisations qui devait être annoncé pour rendre les entreprises au peuple, et bien ma foi, ce dossier-là est au point mort, et le gouvernement de la passionnaria Timoshenko n'arrive pas à modifier en profondeur, ou ne serait-ce qu'avec un certain nombre de signes. On peut évidemment pas demander à un gouvernement en moins de 3 mois d'inverser une situation économique, mais aujourd'hui l'ensemble des clignotants sont passés à l'orange, et aucune décision n'a été prise qui permette de montrer une gestion économique qui tranche avec le passé. Alors on pourrait dire qu'il y a tout loisir de regarder un peu plus avant ce qui va se passer. Si on regarde, puisque tout le monde nous serine de la révolution orange après la révolution des roses, si l'on regarde ce qui se passe en Géorgie, eh bien ma foi, la Géorgie aujourd'hui, son enjeu c'est d'obtenir avec la pression internationale le départ de 2 bases russes, de 3000 soldats russes qui sont aujourd'hui sur son territoire, mais que les enjeux liés à la protection sociale, au paiement des pensions et à la corruption n'ont, eux, absolument pas bougé. Et donc, à minima, le constat que l'on peut faire, c'est qu'on aurait remplacé un tsar, non pas un tsar rouge, mais un tsar russophile par un tsar américanophile, mais que pour le géorgien lambda, comme pour l'ukrainien lambda, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Et je pense que ça permettra probablement de faire réfléchir les Biélorusses, puisqu'on sait maintenant, depuis le dernier voyage de Condoleezza Rice à Moscou, et surtout depuis la Lituanie où elle s'exprimait, que la Biélorussie est maintenant l'objet de toutes les attentions des financements américains. Je pense que les Biélorusses auront certainement, et je leur souhaite en tout cas, tout loisir de constater ce qui s'est fait en Géorgie et en Ukraine. Je crois que c'est deux éléments, enfin un autre élément en plus de celui-là. On a assisté à une... Ceux qui ont suivi les activités de Colin Powell, donc qui est l'ancien secrétaire d'État américain, auront été ravis de ces précisions qu'il nous donne sur la vision que les États-Unis ont de l'Europe. Je cite Colin Powell: j'espère que l'intégration de la Turquie saura susciter une vague d'émulation démographique chez les pays de la périphérie de l'Union. Je me réfère à ces nations autrefois brimées par la dictature soviétique et qui ont su progressivement se libérer de l'oppression et s'émanciper de l'obscurantisme, on dirait du Jack Lang, comme l'ont montré la révolution de la rose en Géorgie, la révolution orange en Ukraine et celle des tulipes au Kyrgyzstan. Il serait bénéfique que ces nouvelles démocraties s'intègrent dans un second temps à l'institution européenne qui saura leur garantir un avenir de sécurité économique, politique et militaire, constituant le meilleur rempart contre la tentation des totalitarismes. Alors ce que je propose, c'est à chaque auditeur de prendre immédiatement un atlas, de regarder où se situe le Kyrgyzstan, et je pardonne par avance ceux des auditeurs de Radio Courtoisie qui savent très bien où c'est, et donc qu'ils voient que la vision américaine de l'Europe, c'est de faire de cette
Europe, mais une espèce de centre de retraitement de déchets post-soviétiques pour en faire des lingots tout neufs de la démocratie, prêts à être disponibles pour le grand marché libéral américain. Et je pense que donc quand on regarde, et je crois que Colin Powell a été très timide, puisque il aurait très bien pu nous emmener jusqu'en Afghanistan, au Turkménistan ou que sais-je. L'idée, c'est d'arriver bien évidemment aux frontières de la Chine pour être certain de terminer le containment de ce pays qui s'avère être le concurrent de demain des États-Unis. Donc, aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous reprochent souvent de ne pas adhérer à la vision angélique de l'Europe américaine, eh bien, un survol rapide de l'Atlas et de la planisphère sera des plus bénéfiques.
Très bien. Oui, il s'est passé aussi quelque chose quand même pour l'Europe il y a deux jours, une fois de plus dans un silence médiatique assourdissant qui sera reproché dans quelques années si on doit voter. Mais donc Bucarest et Sofia ont signé donc il y a deux jours le traité, enfin qui leur permettra au 1er janvier de l'année prochaine d'intégrer pleinement l'Union européenne. Alors voilà, je vous livre l'information au cas où elle vous aura échappé comme je pense à 99% des Français, comme souvenez-vous, la modestie des célébrations de l'ouverture de l'Europe de 15 à 25 avait été soulignée en son temps, et avec les effets négatifs que l'on constate aujourd'hui dans le cadre de la campagne sur le référendum, puisque tout le monde a l'impression de découvrir que maintenant nous sommes 25 au sein de l'Union européenne. Voilà, mais c'est le citoyen lambda à qui on donne le droit de vote. Voilà, le problème c'est qu'il est au courant de rien.
Voilà, et bien sur ce triste constat de la démocratie qui nous fait beaucoup avancer.
Oui, nous allons clore
cette première demi-heure, et puis nous allons donc attaquer avec vaillance cette deuxième demi-heure des émissions de Chroniques de la Vieille Europe sur Radio Courtoisie que nous consacrerons à notre invité.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, les chroniques de la vieille Europe, comme tous les mois. Nous recevons ce soir Olivier Lebrun, journaliste de défense, sur le thème justement qui nous occupe souvent, des rapports de puissance et d'influence entre l'Europe et les États-Unis, et accessoirement, si on a le temps, mais ce n'est pas sûr, les autres puissances, les puissances émergentes indiennes et chinoises. La première chose peut-être, Olivier Lebrun, merci d'être venu nous voir.
Bonjour. Merci de votre invitation.
Vous avez lu, vous êtes un des rares francophones à avoir lu intégralement le dernier rapport de la CIA de prospective. Alors peut-être, juste pour commencer en mise en bouche, quelle est la vision du monde de nos amis d'outre-Atlantique ?
Écoutez, de façon assez rapide et synthétique, ce rapport de la CIA n'a rien que de très habituel si on connaît la façon de procéder en matière d'analyse géopolitique de la part de la centrale de l'Anglais, hein, la CIA. On réunit un certain nombre de spécialistes de géopolitique, de professeurs d'université autour de thèmes connexes. Ils travaillent dans leur coin autour de groupes de projets, et tout ça fait un grand patchwork géopolitique, une sorte d'analyse sur les problèmes du monde à l'horizon 2020, qui nous dit qu'effectivement les futures puissances structurantes en 2020 seront l'Inde et la Chine, que le leadership américain sera d'une certaine façon menacé par ces puissances, que l'Europe continuera à patiner, aura du mal à intégrer ces minorités extra-européennes entrées par le biais de l'immigration légale ou illégale, avec des problèmes culturels assez énormes. La CIA doute que que l'Europe puisse se faire face à ces problèmes.
Justement, ça c'est peut-être un point positif, peut-être qu'on peut retirer de ce travail, oui, effectivement assez classique et convenu de la CIA, c'est qu'elle insiste sur l'implosion démographique du continent européen comme un facteur d'impuissance, c'est le cas de le dire, pour les années à venir.
Tout à fait, elle remet au centre de son analyse, effectivement, ce que vous appelez l'implosion démographique, en soulignant que c'est le principal danger qui guette l'Union européenne. Effectivement, ce qu'on peut aussi souligner dans ce rapport, qui est disponible en ligne sur Internet, hein, qui est en software, du moins pour ceux qui sont familiers avec l'anglais, c'est le fait que la CIA place au cœur de sa dialectique, de son analyse, le fait identitaire. Pour elle, le principal événement, ce qui va reconfigurer le monde demain, en 2020, c'est-à-dire demain, c'est la place d'identité religieuse, des recompositions identitaires, autour en particulier de la religion. Alors, ça rejoint ce que vous disiez sur Benoît XVI et le symbole géopolitique qu'est l'élection du nouveau pape. Effectivement, la religion, et là on passe tout de suite à l'islamisme, en tout cas les Américains y pensent très fortement et pour cause, et pour eux le nouvel élément structurant des identités géopolitiques et des logiques qui bâtissent le monde de demain.
Mais c'est une façon de recycler peut-être les thèses de Samuel Huntington aussi.
Tout à fait, mais il y a du très bon à prendre chez Samuel Huntington si on prend la peine de le lire, en tout cas non pas seulement le livre qui a fait son succès, mais également le dernier sur qui sommes-nous et sur l'avenir de l'Amérique, en particulier avec ses minorités ethniques.
Tout à fait. Signalons, puisqu'on signale beaucoup d'articles et de sources extérieures, l'excellent article à ce sujet dans le dernier numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, consacrée d'ailleurs à l'Amérique divisée, enfin le Yankee sudiste, mais donc avec un focus très éclairant sur la personnalité et les travaux de Samuel Huntington, qui sont superbement ignorés. En fait, en France, on a l'impression qu'on a lu son œuvre quand on retient le titre Le choc des civilisations, alors que c'est beaucoup plus structurant, beaucoup plus mesuré que le titre. Et enfin, c'est une pensée assez riche et qui visiblement a de l'avenir, contrairement à ce que l'on croit. Décidément, on va finir par dire beaucoup de mal des États, beaucoup de bien des États-Unis.
Ce que je vous propose, que le temps est quand même compté. Pour une fois qu'on a un vrai expert avec nous, il faut quand même qu'on parle des questions de défense.
On va parler des questions de défense. Peut-être 3-4 chiffres pour éclairer effectivement le déséquilibre des budgets militaires de part et d'autre de l'Atlantique, et qui explique en grande partie les politiques étrangères des uns et des autres.
Écoutez, un seul chiffre d'ailleurs suffira. Le budget américain prévu en 2007, budget de la défense, 480 milliards de dollars, quelque chose d'énorme et qui donne une capacité sans commune mesure avec ce qui peut exister ou ne pas exister d'ailleurs en Europe, aux États-Unis, et ce qui fonde en partie la différence de crédibilité entre les États-Unis, avec un intérêt national bien compris et bien employé, et une Europe qui se cherche, et c'est le sujet de cette synthèse d'ailleurs, développement de l'Europe de la défense entre autonomie et atlantisme. On peut débuter d'ailleurs cette petite synthèse en citant une spécialiste bien connue de l'Europe de la défense qui justifie son nom à la Constitution européenne. En nous disant non, parce que l'inféodation à l'OTAN, inscrite noir sur blanc dans le traité, montre à quel point ce texte se veut atlantiste. On nous parle d'Europe puissance, on appelle les États à démultiplier leur potentiel militaire. Tout le monde aura reconnu donc la spécialiste bien connue de la défense, Marie-Georges Buffet, secrétaire nationale du PCF. Donc on peut se contenter de ce genre d'analyse, on peut aussi essayer de réfléchir.
Là-dessus, Olivier Lebrun, excusez-moi, donc on va aller plus avant sur le traité constitutionnel en matière de défense, ce qui est effectivement un point essentiel de nos réflexions actuelles, mais je ne sais pas si les auditeurs de Radio Courtoisie ont bien conscience des masses en jeu. Moi, j'ai les chiffres 2003, enfin des budgets 2003, donc fournis par une ONG, enfin le Stockholm International Peace Research Institute, le Yearbook 2004, qui cite donc pour les budgets militaires 2003, effectivement, vous nous disiez 480 milliards de dollars, donc en 2007 pour les États-Unis. Ils étaient déjà en 2003 à 417,4 milliards. Et donc évidemment les premiers au monde. Derrière le Japon, à moins de 47 milliards. Hein, le fossé est énorme entre le premier et le deuxième. Troisième, la Grande-Bretagne, avec un peu plus de 37 milliards de dollars. Derrière la France, quatrième position avec 35 milliards et la Chine en cinquième position avec un peu moins de 33 milliards, mais l'institut en question de Stockholm estimant que les chiffres chinois ne sont pas fiables et il est vraisemblable que ce soit évidemment nettement supérieur.
Oui, il faut multiplier par au moins 2 ou 3 pour ce qui est des chiffres chinois.
Voilà, bah, et donc ils sont devant le Japon et mais encore très loin derrière les États-Unis. En fait, ce que les gens comprennent pas toujours, c'est que les États-Unis sont vraiment l'hyperpuissance au sens où il n'y a absolument aucun concurrent, enfin concurrent et encore moins adversaire imaginable dans le domaine militaire.
Hein, mais bien sûr, du point de vue des capacités, effectivement.
Des capacités, des budgets de recherche, d'investissement et des capacités opérationnelles et de projection des forces.
Tout à fait. Donc globalement, si on revient sur le problème de l'Europe de la défense, on peut dire de façon honnête, hein, donc pour se démarquer de la citation que je faisais tout à l'heure de Mme Buffet, l'Europe de la défense a énormément progressé depuis 10 ans. C'est un fait, hein, c'est un constat. Du moins, si on compte, si on additionne toutes les initiatives, appels, groupes de réflexion, groupes de projets, agences, organisations, groupes de combat. Mais les problèmes demeurent. La pléthore d'initiatives et l'addition des faiblesses ne fait pas la force. On peut lister trois grandes difficultés principales dans l'Europe de la défense aujourd'hui. Une difficulté d'abord, première difficulté budgétaire. Les budgets consacrés aux investissements de défense sont notoirement soit en chute libre, soit stationnaires, et en tout cas bien insuffisants. À part la Grande-Bretagne et la France, mais qui se maintiennent plutôt qu'elles ne progressent, les autres pays ne sont pas à la hauteur. De façon emblématique, l'Allemagne, par exemple, est intéressante à observer. Alors que Berlin découvre une culture de projection d'intervention à l'extérieur qu'elle ne connaissait pas, intervient en Afghanistan, que son ministre de la Défense, M. Strouk, a déclaré que la sécurité, donc je cite, la sécurité de l'Allemagne se défend sur l'Hindou Kush, ce qui est quand même une révolution pour un Allemand.
Oui, pourquoi pas la Syrie laïque, oui.
Malgré ces changements, donc il manque 2 milliards d'euros au budget de la Bundeswehr actuellement. Les militaires de la Bundeswehr ne savent pas trop comment ils vont s'en sortir pour joindre les deux bouts. Le budget de la défense est bloqué à 24 milliards d'euros, donc quasiment 1% du PIB, ce qui est notoirement insuffisant. En matière d'investissement de défense, on estime que ce qui est raisonnable, c'est l'équivalent de 3% du PIB. L'Allemagne en est bien loin à 1%, nous en sommes loin.
Nous sommes à quoi, 2,5 nous, la France, en ce moment ou...
Environ, oui.
Ouais. Mais là, pour le coup, le traité constitutionnel européen constitue une véritable avancée.
Ce que je vous propose, pour la clarté, pour nos auditeurs, trois difficultés, vous avez cité la première.
Voilà, la première, les budgets. La première, les budgets, donc je parlais de l'Allemagne. Résultat de ces problèmes budgétaires, problèmes d'équipement en Europe. Pour les curieux, je recommande le rapport de la Cour des comptes française de décembre dernier, donc très récent, sur la disponibilité opérationnelle de nos matériels. C'est assez éclairant. Il est en accès libre également sur Internet. Première difficulté, les budgets. Deuxième difficulté, après les budgets, les capacités. Elles sont également insuffisantes au regard des ambitions qui sont celles de l'Europe. Quand je dis que l'Europe de la défense progresse, effectivement, on a défini des ambitions. Ce qui est bien, on n'a pas les capacités pour les remplir. Quand on dit l'Europe doit intervenir rapidement à l'extérieur pour stabiliser une zone de conflit, s'interposer militairement, apporter une aide humanitaire sécurisée, cela induit des capacités. Par le biais des nouveaux groupes de combat qui ont été mis en place, proposés, qui ont un véritable succès auprès des États membres, l'Union européenne veut théoriquement déployer simultanément 2 groupes de 1500 hommes à 6000 km de Bruxelles sur préavis de 10 jours pour une durée de 120 jours. Ça, ce sont des mots. Derrière, il y a des capacités, une logistique, des hommes qui doivent être remplacés, quelque chose d'extrêmement lourd. Or, pour suivre ces requêtes capacitaires, théorisées dans la récente stratégie de sécurité de l'Union, il manque des moyens de transport. Et même après l'arrivée de l'A400M, hein, cet avion de transport qui est entre le niveau stratégique et le niveau tactique, hein, du point de vue des rayons d'action, il manque donc des moyens de transport, il nous manque des moyens de ravitaillement, il manque des moyens de communication, de commandement et de contrôle. C'est-à-dire, en fin de compte, les moyens de l'autonomie stratégique. Et c'est ça qui compte dans la définition de l'Europe de la défense. Et ces moyens, aujourd'hui, en Europe, par le biais de l'OTAN, ce sont les États-Unis qui les détiennent. Donc, première difficulté, les budgets. Deuxième, les capacités. Et troisième difficulté, puisqu'on parle des États-Unis, c'est le doublonnage, le recouvrement des logiques capacitaires de l'OTAN et de l'Union européenne, de sa politique européenne de sécurité et de défense. Pourquoi ? Il faut revenir sur l'OTAN, puisqu'on en parle beaucoup au sujet de la Constitution. L'OTAN, d'abord, a mal vécu la chute du mur de Berlin, et encore plus mal les conséquences du 11 septembre. Pour justifier son existence, puisqu'on en était là, l'Alliance s'est engagée dans une politique de transformation très très profonde, qui a remis en cause sa façon de fonctionner, et les rapports entre les États-Unis et ceux que certains appelleraient des vassaux ou ceux que certains appelleraient des alliés. Ce qui aboutit à deux choses concrètes sur lesquelles il nous faut réfléchir. D'abord, le renforcement, premièrement, de la domination américaine en matière doctrinale et en matière de procédure, ce qui est extrêmement important aujourd'hui où la technologie prend une place de plus en plus importante dans la définition des capacités militaires. En fait, l'interopérabilité que tous les militaires et le gouvernement appellent de leur vœu doit être américano-centrée. En tout cas, le vœu des États-Unis, et concrètement, c'est ce à quoi l'OTAN mène. Deuxième conséquence, la mise sur pied d'une force de réaction rapide qui s'appelle la NATO Response Force. Donc, beaucoup d'entre vous ont entendu parler. C'est la NRF qui, l'année prochaine, théoriquement, devrait réunir 24 000 hommes. Donc, cette NRF, c'est le problème de l'Europe de la défense de ce sujet, c'est l'inflation des sigles qui est assez difficile à intégrer.
La NRF, c'est déjà pris en plus.
Oui. C'est le problème de la défense en général, hein, soyons francs.
C'est le problème de toutes les bureaucraties. Hein.
La NRF est déjà prise, effectivement. Disons que c'est la nouvelle NRF. Mais il n'y a rien de littéraire là-dedans. Et les missions de cette force d'intervention sont, je vous les citerai pas tous, mais c'est à peu près tout et n'importe quoi, y compris entre le sauvetage d'otages, les opérations antiterroristes et la mise en place d'embargo. Mais ce qui est important, c'est que pour Washington, cette NRF repose sur des forces européennes à qui les Américains fournissent les moyens d'autonomie stratégique, ravitaillement en vol, transport, moyens de surveillance, communication. Donc, en conclusion, les moyens d'autonomie, d'information, de projection restent américains. Il y a donc en Europe, quand on liste ces trois difficultés, budget, capacité, rapport entre l'OTAN et l'Union européenne, deux initiatives concurrentes. Les groupes de combat de l'Union européenne et la NRF de l'OTAN. Et ces deux initiatives puisent au même réservoir de force. On voit donc bien qu'on est dans une situation bloquée, entretenue par la division des Européens. De ces trois constats, s'il me reste peu de temps, on peut basculer sur une question intéressante qui nous ramène à la question de la Constitution et des commentaires plus ou moins fondés en raison et en analyse sur l'influence de l'OTAN, l'influence des États-Unis, l'avenir de l'Europe. On ramène à la question des rapports entre États-Unis et Europe, rapports qui sont souvent débattus dans cette émission. Aujourd'hui, la PESD, politique européenne de sécurité et de défense, n'est pas crédible parce qu'elle n'est pas autonome. La politique américaine est à l'origine de cette situation, mais l'Amérique ne doit pas être vue comme le grand Satan, et la théorie du complot doit pas être appliquée à notre analyse sur l'Europe de la défense. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'Amérique, ce qui nous déplaît dans les États-Unis, c'est le spectacle d'un intérêt national cohérent poursuivi avec application et logique, c'est-à-dire une façon qui est pas exempt d'erreur de leur point de vue ni de faute, mais qui est au moins conscient de lui-même. En fait, c'est pour l'Europe, du point de vue de l'Europe de la défense, c'est l'objectif qu'on devrait atteindre, mais pour nous-mêmes. Et ça ne se fera qu'au prix d'une révolution des mentalités, pas dans un sens anti-américain, et ça on peut en discuter, mais à mon avis, même l'avis, dans un sens identitaire européen. C'est-à-dire que l'Europe de la défense efficace ne sera qu'une des conséquences de cette prise de conscience. Il ne suffit pas d'atteindre les 3% du PIB dont je parlais tout à l'heure, 3% du PIB consacré à l'Europe au budget de défense. Parce qu'en fin de compte, les budgets de défense découlent de la volonté des gouvernements. Et c'est jamais le contraire qui se passe. Donc, je dirais qu'il y a trois manières de considérer la présence américaine militaire en Europe. Une manière stupide, une manière servile, une manière réaliste. Disons que la manière stupide, d'une certaine façon, c'est par principe et en dehors de toute réflexion, de refuser toute coopération avec eux. Pour ça, en premier lieu, il faudrait soi-même être crédible. Et je peux vous dire, quand on se penche sur les chiffres et sur la réalité de l'Europe de la défense, que c'est loin d'être le cas. Il y a une autre manière qui est une manière servile, ce qu'on pourrait appeler l'atlantisme compulsionnel de certaines de nos élites qui, par principe toujours, considèrent toute initiative américaine comme l'alpha et l'oméga de toute pensée stratégique à laquelle il faut naturellement se rallier. Et enfin, il y a une manière que j'appellerais réaliste, pas très heureux, mais on pourrait trouver un autre adjectif, mais disons une manière réaliste qui considère les États-Unis comme un partenaire avec qui il faut savoir travailler, mais dont il faut parfois se méfier. Sachant que c'est un pays conscient de lui-même qui poursuit un intérêt national cohérent. En tout cas, en l'absence d'efforts budgétaires européens, je dis bien en l'absence d'efforts budgétaires européens, l'OTAN reste une nécessité, ou un mal nécessaire si vous préférez. Il faut savoir sortir de cette logique, et on en sortira par un volontarisme budgétaire.
D'accord. Olivier Lebrun, merci pour cette explication très, très claire, à la fois sur les constats et sur les perspectives. J'en profite tout de suite pour abonder sur dans votre sens. Et je crois que nous, ici, dans ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie, nous avons très souvent l'occasion de gloser sur une certaine partie du danger ou du péril américain, mais jamais par anti-américanisme primaire et viscéral, parce que s'il y a bien une chose, effectivement, qu'on peut reconnaître aux Américains, c'est leur capacité à conceptualiser une volonté de puissance pour leurs propres intérêts et à mettre en œuvre tous les moyens qui vont derrière cette volonté. Donc, sur la capacité à entrevoir les États-Unis dans dans les dilemmes de l'Europe d'aujourd'hui, je crois qu'on est en face. Grégoire Gambier, une question ou une réaction par rapport à l'analyse assez claire de Olivier Lebrun?
Nous sommes totalement en phase, mais rappelons simplement que les intérêts stratégiques de part et d'autre de l'Atlantique se sont sérieusement creusés et se creusent de plus en plus avec l'évolution géopolitique qui marque le monde depuis une quinzaine d'années. Donc il ne faut pas non plus toujours raisonner ce qui est le cas des personnes qu'Olivier Lebrun a très légitimement stigmatisées, c'est-à-dire les serviles, mais aussi
sors de l'histoire parce que les Américains s'en occupent.
Voilà, mais aussi l'atlantisme compulsionnel.
Oui, mais aussi les premiers sont aussi dans le même schéma mental, à front renversé, donc de l'occupation de l'Europe par les troupes américaines et cette vision de choc frontal est-ouest qui n'a plus lieu d'être.
Tout à fait. Je reviens, si vous permettez, sur la citation de Marie-Georges Buffet. Elle est passée un peu rapidement.
Elle est excellente.
L'inféodation à l'OTAN, elle est excellente. Inscrite noir sur blanc dans le traité, montre à quel point ce texte veut atlantiste. Et on nous parle d'Europe puissance, on appelle les États à démultiplier leur potentiel militaire. C'est cette brave dame dit
deux choses
totalement différentes et antithétiques. Donc ces deux phrases ne valent rien.
Les auditeurs radio courtoisie sont assez convaincus du fait que
Marie-Georges Buffet n'est pas crédible.
ou peut-être que Marie-Georges Buffet a décidé que le budget de la défense en France et en Europe va augmenter pour pouvoir concurrencer les États-Unis, parce que va falloir quand même un moment choisir à ce niveau-là.
Ouais, mais là ils sont dans le long choix. Le nom de gauche au référendum européen est là pour le coup un nom pulsionnel, et convulsif et irrationnel qui ne repose sur aucune lecture stratégique sérieuse. Ça, nous sommes totalement d'accord. Mais justement sur ce traité européen, Jacques Chirac est allé récemment au Luc en Provence pour dans le cadre de ses tournées pour laborieusement essayer de faire remonter le oui au référendum européen. Donc Luc en Provence tester, à défaut d'être construit, l'hélicoptère franco-allemand Tigre. Alors là encore, c'est comme pour Airbus, hein, le Tigre, on a l'impression que c'est l'hélicoptère du traité constitutionnel. Alors, heureusement, on n'a pas attendu le traité constitutionnel pour faire ce type d'armement franco-allemand, essentiellement. Alors Jacques Chirac a souligné trois avancées grâce à la Constitution européenne. Vous allez peut-être pouvoir nous les confirmer ou infirmer, Olivier Lebrun. La première chose qu'apporte le traité constitutionnel, c'est la clause inédite de solidarité et d'assistance mutuelle, inscrite donc dans ce traité. Mais on a l'impression que ça change pas grand chose par rapport à l'OTAN et sont quand même les mêmes pays concernés. Donc qu'en pensez-vous de ce premier?
Donnez les trois.
Les trois et après on discute. Voilà. D'accord. Moi j'en ai vu trois.
On pourrait dire d'une certaine façon qu'il y en a quatre. Effectivement, oui. Celle que vous venez de mentionner, c'est l'article 1.41. Un de ces éléments, c'est effectivement la clause de solidarité entre nations européennes au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, etc. Donc les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Un peu plus long, mais disons que c'est le premier. Ensuite, il y a également une ouverture vers la constitution facilitée de noyaux durs de pays un peu plus volontaires dans un domaine ou un autre, en particulier du point de vue des capacités, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Le troisième, l'industrie de défense aussi peut-être.
Oui, le troisième, ça serait donc effectivement la mise en place de l'agence de défense européenne, hein, qui est un pas en avant, et enfin la création d'un ministre des Affaires étrangères européen, mais qui se rattache à cette logique. Écoutez, très honnêtement, si on prend simplement le volet défense de la Constitution européenne, c'est une avancée. C'est une avancée. Voter non à la Constitution simplement du point de vue de la défense est, à mon avis, un non-sens. Malheureusement, on ne vote pas, et là c'est un point de vue personnel, on ne vote pas à l'occasion de cette constitution, simplement, malheureusement, sur la problématique de défense, mais sur bien d'autres choses, et en particulier sur la vision qu'on se fait de l'Europe du point de vue de son identité. Ce qui dépasse, même si c'est la défense très importante, ce qui dépasse le simple enjeu de la défense. Donc, très clairement, il y a des bonnes raisons de voter non à ce traité, mais en tout cas, voter non parce que, sur le point de vue de la défense, serait un non-sens. Mais ça peut être effectivement discuté.
Est-ce que les coopérations interétatiques du domaine de la défense, ou d'ailleurs, aujourd'hui, dans le projet de constitution, les coopérations sont désormais beaucoup plus encadrées qu'elles ne l'étaient avant la constitution. On a parlé de 9 pays, il faut un minimum de 9 pays, il faut qu'il y ait un aval de la Commission européenne.
Tout à fait.
Est-ce que ça, c'est une vraie avancée pour l'Europe de la défense, sachant qu'on ne trouvera jamais 9 pays capables de se mettre autour de la table pour développer un outil intelligent en termes de, et réaliste dans votre... Est-ce qu'on trouvera 9 pays qui sont capables de travailler sur la défense autrement que de manière stupide ou servile?
Oui, parce que ça existe déjà.
9 pays.
Je vous dis, oui, 9 pays. On pourrait prendre... Bon, effectivement, vous n'en avez pas 9 dans le cas du programme d'avion de transport à 400 m, mais je vous disais qu'il y avait, je voulais pas descendre dans les détails, mais je vous disais qu'il y a deux processus capacitaires en Europe. C'est un peu barbare, mais disons qu'il y a l'OTAN et l'UE qui ont chacun leur processus. L'un, celui de l'OTAN, est appelé le processus de Prague, processus capacitaire, le processus de l'Union européenne s'appelle le processus d'Helsinki, le nom du sommet de 2001 qui a réfléchi sur le manque de capacité européenne. Dans ces deux processus, vous avez la constitution d'un certain nombre de groupes de projets, ce qu'on appelle le groupe de projets, qui réunissent 9, 10, 12, 14 pays autour d'un thème. Par exemple, la France préside le groupe de projet drone, le groupe de projet espace. L'Allemagne préside le groupe de projet, du point de vue de l'Union européenne, transport stratégique. Donc vous avez des pays qui se réunissent autour d'éléments concrets, d'objectifs concrets, pour essayer d'explorer les voies d'acquisition de matériel en commun, d'explorer les voies de location de matériel. Par exemple, pour transporter le matériel, aujourd'hui, on loue des Antonov 124, qui sont des avions gros porteurs russes ou ukrainiens.
Une marque très fiable.
Oui, une marque plutôt robuste.
Disons, je ne sais pas s'ils dureront autant que les Transat.
Disons que ça
a l'air sérieux.
Disons que leur capacité d'emport est assez impressionnante. Leur fiabilité pourrait faire l'objet d'une émission entière.
Et de plusieurs commissions d'enquête. L'ONG américaine neutre.
Oui, bien sûr, avec des écharpes oranges.
Une tulipe dans la main et une rose dans l'autre. Quoi qu'il en soit, pour revenir à votre question, effectivement, ces groupes de projets existent et la Constitution européenne ne tire pas ces clauses de noyau dur du néant. Je crois que c'est une avancée.
Mais quand on a vu Tervuren, le sommet de Tervuren, alors ils étaient loin d'être 9 puisqu'ils étaient 3, 4 si on ajoute le Luxembourg. Ça a déclenché un ourvari pas possible. Comment peut-on imaginer que sur la lancée de Tervuren, on puisse bâtir quelque chose avec 9 pays et un aval de la Commission européenne dont personne ne sera dupe de l'Atlantisme.
Les neuf pays, on est d'accord qu'on peut toujours les trouver. Enfin, même si c'est plus compliqué. Enfin, regardez l'Espagne qui a plutôt rebasculé dans l'axe oui. Paris-Berlin-Moscou.
La Hongrie, voilà.
Et pourquoi pas l'Italie demain. Et comme ça, ce sera.
Et l'Angleterre, parce qu'il y aura du business pour British Aerospace.
Nous ne nous engageons pas sur ce terrain. Mais peut-être que la clause des 9 pays, effectivement, n'est pas totalement insurmontable. En revanche, c'est vrai que l'aval de la Commission européenne, lorsque l'on connaît les stratégies d'influence relativement élaborées chez les anglo-saxons auprès des instances européennes, que la France, évidemment, a été incapable de mener, d'où, une fois de plus, les réactions convulsionnelles actuelles sur le référendum européen, parce que l'Europe de Bruxelles, c'est une créature française qui échappe à son créateur, ni plus ni moins. Comment peut-on imaginer cet aval de la Commission européenne sur des questions aussi sensibles, qui souvent d'ailleurs sont traitées largement en amont, avec un peu plus de discrétion?
Oui, une créature française qui échappe à son créateur, je ne me rappelle plus exactement comment finit le Frankenstein de Marie Shelley. Mais...
Avec un nom pareil, mal.
on va lui couper l'électricité. Mais je crois que sincèrement les avancées du point de vue de la défense dans la Constitution européenne sont de vraies avancées. Vous citiez tout à l'heure la réunion de Tervuren, donc c'était effectivement la déclaration commune de quatre pays, la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, en avril 2003.
L'Europe carolingienne,
si on veut. Cette déclaration mentionnait, et c'est ce qu'on pourrait retenir, une union européenne de sécurité et de défense. Non pas la politique européenne de sécurité et de défense de l'Union, mais une union européenne de sécurité et de défense, ce qui allait très loin dans la voie de l'intégration. Cette formule n'a pas été une formule en l'air, elle est reprise, elle est prise en compte à de nombreux niveaux, non seulement français mais également européens. Et il ne faut pas oublier que la politique britannique a changé depuis 98 en particulier, hein, et puis les sommets de Saint-Malo et du Touquet. C'est la Grande-Bretagne qui a relancé le processus d'Europe de la défense. Les Britanniques ne sont pas, je disais qu'il y a une manière servile ou un atlantisme compulsionnel de voir l'avenir de l'Europe de la défense. Les Britanniques sont beaucoup plus pragmatiques qu'atlantistes au sens pur. Et ils peuvent réserver des surprises. Regardez le programme A400M, donc cet avion de transport qui va donner une nouvelle capacité à l'Europe, capacité insuffisante, mais en tout cas capacité améliorée. Ce programme A400M a été relancé par les Britanniques. Si on avait laissé les Français et les Allemands discuter ce programme et se disputer entre eux, ils n'auraient jamais vu le jour. Or, c'est vraiment un des symboles rares de ce qui marche et de ce qui est concret, ce qui sort des chaînes de production de l'Europe de la défense.
Oui.
Donc je crois qu'il y a, voilà, il y a une il faut pas insulter l'avenir de ce point de vue. Moi je crois que quand on réfléchit sur le débat de la Constitution, très franchement, très honnêtement, le volet défense de la Constitution est un bon volet. Donc c'est une mauvaise raison de voter non. Il y a plein de bonnes raisons de voter non, de très bonnes raisons. Je crois que c'est des raisons sur l'identité, sur la vision globale qu'on se fait de l'Europe, mais sur le problème de l'Europe de la défense qui continuera, hein, que cette Constitution existe,
oui,
ou pas.
En l'espèce, ça continuera quoi qu'il arrive, parce que le principe, oui, des groupes pionniers, effectivement, on n'a pas attendu le référendum du 29 mai pour voir le sommet de Tervuren et pour voir des coopérations industrielles de plus en plus poussées dans le domaine de la défense.
Tout à fait, comme on n'a pas attendu Jean Monnet pour que l'Europe existe, effectivement. Vous me posez la question sur la Constitution, je vous réponds que c'est un bon volet. Je vous réponds sur la Constitution.
Tout à fait. Patrick Péel, vous vouliez intervenir, mais peut-être...
Oui, juste une curiosité. Comment vous analysez justement peut-être ce, même si la France va se méfier, mais ce retournement de l'Angleterre, est-ce que c'est simplement le fait que Tony Blair a peut-être une politique un peu plus européenne, ou est-ce que profondément l'Angleterre, que ça soit des deux côtés, droite ou gauche, a vraiment envie de rentrer dans cette Europe de la défense?
L'Angleterre est liée à l'Europe et à l'Europe de la défense, comme elle est liée aux États-Unis. Elle a une position, je vous apprends rien, particulièrement
special relationship,
tout à fait délicate. Je crois que l'évolution de l'Angleterre est, on peut pas faire on peut pas lire dans les lignes de la main, hein, par-dessus la Manche. Elle sera pragmatique. Elle sera à vue d'homme, et non pas en 2020. Aucun Anglais vous dira qu'en 2020 il va prendre telle et telle décision du point de vue de l'Europe de la défense. Quand on regarde les documents officiels qui viennent du ministère de la défense britannique, hein, ils ont il n'y a pas longtemps sorti leur nouveau livre blanc, ce qu'on appelle le Defense White Paper, on voit que toute leur politique est très pragmatique. Ils disent par exemple très clairement, hein, ce qui est inédit en Europe, il est hors de question qu'à l'avenir la Grande-Bretagne affronte un conflit majeur seul. Le conflit majeur sera de toute façon conduit avec les États-Unis. Donc on peut s'organiser d'une façon différente du point de vue des capacités pour augmenter notre crédibilité et nos moyens dans d'autres domaines. Effectivement, alors on peut l'analyser en termes d'abandon de souveraineté. Les Anglais voient ça d'un œil différent. Ils ont deux principes, hein, enfin en tout cas un principe majeur pour leurs investissements de défense qu'on appelle le best value for money, c'est-à-dire la meilleure prestation pour la moindre dépense possible. Ce sont des Européens dans le cadre de l'Europe de la défense essentiellement pragmatiques. On peut pas tirer de plante sur la comète
ce qui est plutôt bon signe, parce que si les Anglais, les Britanniques choisissent l'Europe de la défense par pragmatisme, c'est plutôt favorable aux industries de défense européennes, à leur capacité.
Si demain la France passe à 4% du PIB en matière de dépenses de défense et que l'Allemagne remonte à 3%, ça s'appelle un cercle vertueux, et on verra la Grande-Bretagne revenir. Mais très franchement, ce n'est pas pour demain.
Il faudra faire vite parce qu'avec le choc démographique en cours.
Sur les industries de défense, d'abord, on sait que British Aerospace, donc qui est la firme britannique, est un des principaux acteurs européens, et seul EADS en termes de surface globale peut rivaliser avec British Aerospace. Et on a vu, on l'a cité dans la dernière émission que British Aerospace s'est opposé à une OPA de General Dynamics, qui est le grand constructeur américain de l'industrie terrestre, et qui souhaitait contrôler, alors j'ai plus le nom de la firme en tête, Olivier Lebrun l'avez-vous, mais British Aerospace s'est opposé par une contre-OPA sur les ambitions de consolidation terrestre européenne de General Dynamics.
Et il s'agissait de la firme Alvis,
les véhicules Vickers
terrestres.
Absolument.
Olivier Lebrun, oui, merci. C'est dommage parce qu'on a plus le temps, mais on n'a pas abordé le thème, vous savez, souligné par le récent rapport parlementaire sur les prises de participation américaines dans les entreprises de la défense européenne, donc qui est une façon aussi une différente, puisque on sait bien que les puissances pragmatiques mais sûres de leur bon droit, comme les États-Unis,
sont capables de ça. C'est qu'on
va réinviter Olivier Lebrun
ou alors on peut demander à Xavier Van Lierde, qui a pas dit grand chose sur le sujet de la défense, mais ça c'est son côté pacifiste, on lui demande de travailler le sujet pour la prochaine fois.
Bon,
merci Olivier Lebrun d'avoir été si clair et synthétique avec nous. On va passer directement à cette troisième demi-heure un petit peu écornée, Patrick Péel, j'espère que vous nous en voudrez pas, sur l'actualité culturelle de la Grande Europe. Nous nous retrouvons dans ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie pour cette troisième demi-heure. Et avant de donner la parole à Patrick Péel, l'actualité et l'urgence, c'est aussi de présenter notre grande fête du livre du 5 juin. Et donc, chers auditeurs, écoutez le petit message suivant.
Dimanche 5 juin, fête de la courtoisie. À Eurosite Austerlitz, dimanche 5 juin, de 10h à 19h, des centaines d'écrivains qui se sont exprimés sur Radio Courtoisie vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux à offrir, des livres dédicacés. Venez à la rencontre de ces auteurs et de toute l'équipe de Radio Courtoisie qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 5 juin, fête de la Courtoisie, Eurosite Austerlitz, 32 quai d'Austerlitz, Paris 13e, métro, gare d'Austerlitz. Entrée 15 euros. Entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents. Pour nous écrire, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Et Bien, tout le monde aura donc retenu ce qu'il faut faire pour être présent à nos côtés le 5 juin. Et donc, puisque c'est une fête des livres, c'est aussi une fête de la culture, et donc c'est l'occasion d'embrayer sur notre demi-heure, ce qui a une forte tendance à devenir un quart d'heure maintenant, un quart d'heure culturel. Patrick Péel, est-ce que vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, quelque chose dont vous voulez nous faire part?
Oui, j'ai quelques petits trucs.
Toujours bien près du micro.
J'avoue que l'actualité culturelle en ce moment est pas terrible. En plus, là, alors, sur le plan cinéma, on va se retrouver avec tous les blockbusters américains qui vont sortir. Donc, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à aller voir au cinéma. Par contre, je viens de lire un livre qui n'est pas forcément culturel, mais on parlait tout à l'heure de géopolitique. C'est la décomposition des nations européennes de l'Union euro-atlantique à l'état mondial de Pierre Hillard, qui vient de sortir aux éditions François-Xavier de Guibert. Donc j'ai décidé pour une fois de lire un livre de géopolitique. Je vous avoue que ça n'a pas été
facile. On vous en aurait indiqué.
Je me suis trompé, parce que Pierre Hillard est peut-être un auteur brillant, et son livre aussi.
Pierre Hillard qui a été reçu plusieurs fois.
Ouais. Mais j'avoue que je suis en contradiction avec son analyse sur la décomposition de l'État-nation, modèle purement français. Alors, premièrement, cette façon de voir chez nos amis allemands un complot germanique contre la France. Et s'il y a beaucoup d'Allemands à Bruxelles dans les institutions européennes, c'est simplement que les Allemands se servent de l'Europe et travaillent. Voilà. Enfin, moi, c'est mon analyse.
Hein. Généralement,
je suis pas un spécialiste. Ouais. Je vous donne un exemple. La région bavaroise a une représentation à Bruxelles d'une vingtaine de personnes.
On va reparler de
Ils ont même un pape maintenant à Rome. Alors, vous rendez compte. Et la région Île-de-France, elle représente 2 ou 3 fonctionnaires à Bruxelles. La moitié des régions françaises n'ont strictement personne sur place. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de faire de publicité pour les régions françaises. On n'a jamais empêché aux Français d'avoir de l'influence sur l'Europe. Et Pierre Hillard représente les institutions européennes comme un fort lobby germanique. Mais la France a autant de poids que l'Allemagne. Malheureusement, pour la France, aucun Européen n'a envie de suivre le modèle français jacobin. Et c'est là que je me suis un peu intéressé depuis 50 ans à la réussite de ce fameux modèle jacobin, de certains dossiers incroyables, une vraie publicité pour nous vendre ce modèle qu'on veut vendre à tout le reste de l'Europe. Alors par exemple, la gestion du dossier Corse en France depuis 30 ans par la France jacobine est une catastrophe. Confiscation des terres corses par les pieds noirs, concentration incontrôlée d'une communauté marocaine, ce qui amène depuis à une véritable bataille ethnique, un milieu politico-mafieux en plein développement, double discours avec les nationalistes. Je comprends que les Corses n'aient plus vraiment confiance au modèle républicain.
Ce qui est sûr, c'est que si la France avait à Bruxelles un lobby comparable au lobby corse de Radio Courtoisie, là, Patrick Péel, là, c'est sûr que les choses iraient mieux.
C'est vrai, vous avez entièrement raison. Alors, monsieur Hillard, il nous dit que naturellement, la Corse se sent plus proche de l'Italie que de la France. Alors, voici une pure réflexion jacobine. La Corse, elle se sent proche de la Corse, elle ne veut en aucun cas devenir italienne. On pourrait dire la même chose des Alsaciens. On a ce côté français à croire que quand une région veut avoir sa propre identité, c'est pour partir dans un autre pays.
Ouais,
elle veut
c'est simplement... plus dur pour la Bretagne. Hein.
Ah oui, alors on pourrait parler aussi de nos dom-tom.
La francophonie, très bien.
De gérer la France, la fortune d'un Gaston Floss, digne du roi soleil, aucun contrôle de la part de l'État depuis 20 ans.
Non, alors la comparaison.
Excusez-moi, il y a deux ou trois jours, une excellente émission sur France 2, pour une fois que je dis du bien
du service public,
qui nous a montré que dans une région où le RMI a explosé, Monsieur Floss a fait construire un vrai palace sur une île pour sa résidence secondaire. Ouais, enfin, cela avec l'argent des Français. Donc merci.
Il ne faut pas confondre les dérives de la démocratie, au soleil des dom-tom, avec les dérives du roi qui a mis l'Europe dans son jardin.
Ouais, mais les dérives d'un modèle jacobin qui n'a strictement aucun contrôle. Alors quand a décidé ce modèle jacobin de décentraliser,
c'est encore pire.
Quand on voit la gestion des populations immigrées en France depuis 50 ans, la France n'a pas besoin de l'Europe pour se détruire politiquement. En niant les identités des peuples, elle a nié le problème des dangers de l'immigration. Logique, à partir du moment où vous ne reconnaissez pas le peuple corse, breton, alsacien ou basque, vous ne pouvez pas reconnaître un peuple musulman, un peuple africain, un peuple antillais. Conclusion, nous sommes tous français dans le meilleur des mondes. Pierre Hillard fait partie de ces souverainistes qui ne voient l'ennemi qu'à l'extérieur. Et l'ennemi est souvent le français lui-même, et il n'a pas besoin de l'Europe pour se détruire lui-même.
Si je dois intervenir, la citation sur les confiscations des terres corses par les pieds noirs est-elle de vous ou de l'auteur que vous citez?
C'est simplement, non, c'est simplement qu'en Corse, au moment où les pieds noirs sont revenus sur le continent,
on a fait revenir les pieds noirs sur le continent.
La France n'avait strictement envie de se débarrasser, donc on a décidé de mettre beaucoup de gens en Corse. On a donné beaucoup de moyens pour qu'ils s'installent en Corse, alors que ces moyens n'avaient jamais été donnés aux propres Corses. Ce qui a fait que, et c'est le problème, n'est pas d'accuser les pieds noirs, c'est qu'on s'est retrouvé avec un conflit dans les années 70-80 entre les Corses d'origine et les pieds noirs. Ce qui fait que si la Corse
on a même failli déclarer la guerre à Monaco. Hein.
Patrick, il est vrai que la France n'a pas besoin de l'Europe pour se détruire, mais ne pensez-vous pas que la Corse n'a pas besoin de la France pour se détruire également?
Bien, là on sort un peu du débat. Je crois que pour ce qui est intéressant, je crois, dans l'analyse que vous faites du livre de Pierre Hillard, qui a quand même un certain nombre de mérites, c'est que mais il dissèque
beaucoup de choses sont très intéressantes.
Voilà, il dissèque
livre,
la bureaucratie européiste et bruxelloise et les analyses de Pierre Hillard nous permettent d'avoir une certaine lucidité sur ce vers quoi l'Europe fédéraliste nous emmène. C'est vrai que le bouquin de Hillard porte en lui-même une grande difficulté qui est que et on en parlait à notre dernière émission où nous avions Guillaume Pelletier qui représentait la campagne de Philippe de Villiers, c'était que c'est certaines dérives du souverainisme, je crois, qui ont tendance à assimiler les dérives de l'Europe libérale, atlantiste, fédérale, avec une volonté de puissance qui serait la volonté de puissance germanique, parce que l'euro serait le Deutschmark transfiguré, que la Banque Centrale est à Francfort, et quelque part c'est d'essayer de flatter le sentiment européen en essayant d'exhumer le vieux fond déliquescent et purulent de l'anti-germanisme qui est quand même depuis des roulades à la source de la boucherie de Verdun et de la tragique guerre civile européenne. Et donc je pense que ça c'est une des limites du bouquin de Hillard. Fermons la parenthèse, Pierre Hillard de toute façon est bienvenu comme nous tous sur Radio Courtoisie et tous ceux qui participent de la dénonciation d'un modèle dont nous ne voulons pas sont nos amis. Alors autre coup de cœur, Grégoire Gambier.
Non, cette fois un vrai coup de cœur, contrairement
à Grégoire Gambier a du cœur, c'est quand même le scoop de l'émission.
Ça m'arrive une fois par an, c'est maintenant, quoique je serai un peu mesuré sur la fin. C'est la dernière livraison de la revue Nouvelle École, que tout le monde connaît bien évidemment ici. L'excellente revue, ça va faire bientôt 40 ans, enfin un peu moins maintenant, que cela irrigue le meilleur de la droite européenne. Xavier von Liert, vous connaissez très bien cette revue aussi, ce sont quasiment des collègues de Relève Politique qui animent Nouvelle École.
Nous avons chacun un point commun avec Nouvelle École, c'est que nous sommes une revue trimestrielle qui paraît tous les 3 ans comme Nouvelle École.
Tout à fait. Non, ça y est. Non, Nouvelle École a admis enfin que c'était méchant. Une revue annuelle. Mais il y en a d'autres de bonnes factures.
Alors, au fait.
Eh bien, la dernière livraison, donc année 2005, c'est une revue annuelle, comme la revue française de géopolitique, par exemple, et donc consacrée, à la géopolitique cette année. Et donc, c'est plutôt une très bonne livraison. Ça n'avait pas été le cas forcément de toutes les dernières. Contrairement à Relève Politique, qui quand elle paraît tous les 3 ans est toujours excellente. Mais donc Nouvelle École, la soirée géopolitique, c'est plutôt une très bonne livraison puisque Alain de Benoît a amalgamé des contributions diverses, mais à la fois soit d'actualité, donc d'analyse des enjeux géopolitiques actuels et surtout du 21e siècle, et des textes de référence des plus grands auteurs de la pensée géopolitique européenne, mais aussi anglo-saxonne, au moins par citation. Et donc ça fait une revue qui est très bien faite, à la fois pour ceux qui ne connaissent pas bien la géopolitique, pour un peu bien embrasser le sujet, et pour ceux qui se piquent de la connaître un petit peu, si tant est qu'on puisse vraiment la connaître totalement un jour, d'approfondir le sujet avec une fois de plus des textes et des analyses intéressantes, notamment d'Emeric Chopra. Enfin, ça va d'Emeric Chopra à Carl Schmitt parmi les contributions. Ça vous donne une idée de l'étendue de l'éventail rassemblé une fois de plus avec culot et talent. Voilà, par Alain de Benoît. Simplement, et c'est là-dessus que c'est une très bonne revue, bien sûr. Mais donc, l'éditorial d'Alain de Benoît, peut fatiguer, parce que là, pour le coup, il est vraiment dans le manichéisme un peu anti-américain. À mon sens, pour de mauvaises raisons qui sont des raisons quasi strictement économiques. C'est-à-dire, c'est un vieux fond anticapitaliste qui ressurgit de temps en temps dans une certaine droite européenne. Bon, pourquoi pas, mais je suis pas sûr que ce soit l'angle le plus efficient pour faire en sorte que l'Europe de demain retrouve les voies de la puissance. En revanche, il insiste sur deux points qui sont totalement essentiels et qui rejoignent notre émission, bien sûr, de ce jour. D'abord, la prégnance de l'opposition ontologique entre terre et mer, c'est-à-dire entre puissance européenne et thalassocratie anglo-saxonne aujourd'hui, mais on retrouve quand même l'opposition Rome-Carthage, par exemple, qui a toujours traversé les chocs de puissance, notamment en Europe. Et le deuxième point intéressant que souligne Alain de Benoît, c'est bien évidemment que on se plaint, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, on se plaint de l'hyperpuissance américaine, parfois avec des faux prétextes et de façon irrationnelle, alors que le vrai problème, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de puissance continentale, eurasiatique, ou en tout cas de volonté politique des gouvernements français, allemands, russes et espagnols maintenant, hein, puisque Alain de Benoît a élargi à l'Espagne l'axe Paris-Berlin-Moscou, pour constituer un véritable axe stratégique majeur du XXIe siècle. Et c'est donc, voilà, la balle est dans le camp, une fois de plus, des Européens, donc dans notre camp.
Voilà, je vais revenir un petit peu en arrière, j'en suis navré, mais pour mentionner quelques messages d'auditeurs, parce que c'est vrai qu'on en a quand même pas lu beaucoup. C'est vrai que dans la deuxième demi-heure, on a eu des messages très techniques, il y a eu des messages, je les passerai à Olivier Lebrun sur l'hélicoptère Tigre, mais je vais pas revenir là-dessus. Simplement, un message sur lequel je vous demande pas de réagir, Patrick PL, un auditeur qui nous dit « Non, je peux pas entendre ce que j'ai entendu, les Corses ont vendu très cher des terres arides aux pieds noirs qui les ont valorisées par un travail acharné, alors ne véhiculez pas les mensonges qu'on entend ici ou là. » On va pas ouvrir le débat, donc mais voilà, cet auditeur souhaitait dire,
c'est l'État français qui a vendu ces terres.
Oui, ce n'est pas étonnant, simplement, et ça va peut-être correspondre à tout le monde, ce n'est pas étonnant que ce soit l'État français qui ait fait en sorte que ce soit deux peuples maudits par Paris, on les parque dans la réserve indienne Corse et on leur donne pas autre chose, hein. Donc c'est quand même ça aussi l'explication l'implantation des pieds noirs en Corse.
Parfait, et un autre message par rapport à nos commentaires sur la Constitution, un auditeur qui nous dit: ne croyez-vous pas, de la même manière que le soulignait M. Lebrun, qu'il y a une manière stupide, servile, réaliste d'envisager des relations transatlantiques, n'y a-t-il pas une manière stupide ou réaliste d'aborder la question de la Constitution ? Cette manière réaliste ne serait-elle pas un oui-mais ou un non-mais, plutôt qu'un oui-franc ou un non-franc ? Je crois que ce que nous avons fait, notamment
oui,
sur la...
c'est beau comme du Fabius.
C'est de dire, oui, il y a un oui-mais ou un non-mais. En ce qui nous concerne, c'est plutôt un non-mais. Le mais étant tous les éléments positifs qu'on a vus sur la question de la défense. Le non restant celui qui nous tient à cœur. Peut-être pas pour tous autour de la table, mais c'était le débat de la dernière fois.
En fin de compte, Benoît XVI pourrait nous dire que votre oui soit oui, que votre non soit non.
Bien, puisqu'on parlait de la Constitution, nous avions mentionné déjà les activités de l'association Europa Gentes. Leur nouvelle manifestation, c'est un rendez-vous mardi 17 mai à 20h30 à la salle SEIN de Place Saint-Germain-des-Prés que les éditeurs de Radio Courtoisie connaissent. Donc une grande réunion, défendons l'Europe des peuples contre l'Europe des élites, avec entre autres les interventions de Christine Boutin, Jean-Pierre Dutrieux, Jacques Trémolet-Villers et Frédéric Pichon et bien d'autres. Voilà, autre
PL. Un petit livre. Alors, je pense que ça va être mon coup de cœur littéraire. C'est « Sans préméditation » d'Hubert Montaillé. Alors, je pense que je ne vais pas présenter Hubert Montaillé aux auditeurs de Radio Courtoisie. L'avantage d'Hubert Montaillé, c'est qu'on est sûr de lire... quand on lit un de ses livres, c'est qu'il est bien écrit, ce qui devient, et j'avoue, devient de plus en plus rare en ce moment. Hubert Montaillé est un écrivain non conformiste, d'une incroyable érudition, qui traite des sujets les plus sérieux et les plus scabreux, avec un brin de détachement, d'humour, dans un style inimitable. Alors après le mythique Néropolis, que tout le monde a lu, ou son dernier livre, Les Bouffons, sur la Révolution française, Montaillé revient au roman noir. Alors, sans préméditation, le roman se passe juste après la Première Guerre mondiale, dans une petite ville de province, l'histoire d'un médecin qui va devenir un assassin tranquille que l'on excuse sans problème devant cette bourgeoisie de province tellement médiocre. Je dirais même que l'on le trouve de plus en plus sympathique à la lecture du livre. Rempli d'humour noir, Montaillé est proche d'un Céline dans Le Voyage, et j'avoue que j'adore quand le bouc émissaire a cette France frileuse et sans honneur. Donc c'est Sans préméditation d'Hubert Montaillé aux éditions Fallois. C'est
très très bien.
Oui, c'est la France d'Uranus, hein. C'est le frilège sans honneur.
Puisque vous parlez de Dubert Montayer, un auteur que j'apprécie énormément, sur le roman noir, on peut citer deux de ses anciens livres qui sont extraordinaires, qui sont Le Retour des cendres et La Part des anges. En particulier Le Retour des cendres, qui est, s'il est réédité, je ne sais pas, en tout cas il était au livre de poche il y a quelques années.
Il était au livre de poche,
peut-être. Il est extraordinaire et je le conseille à tous les lecteurs de Radio Courtoisie.
Mais Olivier Lebrun, vous allez être réinvité à chaque fois maintenant, si vous avez vous participez
un mot
à dire
sur chaque sujet.
Oui. Alors justement, je voudrais peut-être conclure là-dessus, mais sur une frivolité, hein, nous en convenons tous. Le dernier album de New Order, puisque nous avons ouvert cette rubrique, bien sûr, avec notre titre préféré, n'est-ce pas, Patrick PL, de New Order. Donc simplement, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé le dernier album décevant, bien sûr, parce que c'est du grand New Order des années 80.
On n'est pas d'accord, mais c'est
du New Order Dance, donc du pur 100% New Order, c'est-à-dire sans l'inspiration encore prégnante de Joy Division. Donc je conseille plutôt...
si on peut se centrer sur les préoccupations un peu de nos auditeurs... Là.
Mais nous parlons de l'Europe, puisque s'il y a bien un courant musical qui est 100% européen, c'est bien celui dont nous parlons aujourd'hui. Malheureusement, enfin pour certains auditeurs de Radio Courtoisie, il est essentiellement d'origine anglo-saxonne, mais ce sont des choses qui arrivent en musique contemporaine. Donc simplement aux auditeurs de Radio Courtoisie qui seraient tentés d'acheter le dernier New Order, qui s'appelle No, comme un manifeste anti-européen, je conseille plutôt le dernier album de Moby, Hotel, qui est totalement détruit par la critique, alors qu'il est excellent, et notamment parce qu'il fait une reprise très inspirée, et du coup très inspirée de Joy Division, de Temptation, bien sûr.
Je veux juste répondre, l'album...
Très 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 rapidement.
L'album de New Order ne s'appelle pas No, No, c'est simplement les initiales de New Order, il s'appelle Waiting for the Siren Call.
Oh oui, mais c'était beaucoup trop compliqué, Patrick PL. Là, vous embrouillez l'esprit des auditeurs.
Vous faites une sorte de propagande.
Non.
C'est un excellent album. Et je rajoute que vous avez parlé du groupe Joy Division qui a fait partie des groupes les plus importants dans le rock européen.
Bien sûr.
Un film va être consacré à son chanteur qui s'était suicidé.
La totale. Bien.
Qui s'était suicidé à cause de sa maladie.
Oui, Ian Curtis. Tout à fait. Très bien. On attend ce film avec impatience.
Très bien. Et il y a quand même pour la jeunesse des modèles un peu plus exaltants que les chanteurs qui se suicident. Et je pense évidemment, tout le monde l'aura reconnu, à Jean-Pax Mesfray. Et c'est donc sur cette idée que je voudrais clore ces chroniques de la vieille Europe. Merci Grégoire Gambier. Merci Patrick PL et Xavier Van Lierde. Merci Olivier Lebrun pour votre érudition. Merci. Nous retrouverons dans ces chroniques de la vieille Europe le 18 mai, mercredi 18 mai. Et nous aurons la chance d'accueillir autour de nous Aymeric Choprade, dont nous avons parlé autour de la géopolitique. Donc directeur de la revue française de géopolitique, auteur du dictionnaire de géopolitique et qui, quelques jours avant le 29 mai, nous permettra de compléter notre tour d'horizon sur la question européenne. Merci à tous, bonne soirée et au 18 mai. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95,6 MHz, à Caen, sur 100,6, à Chartres, sur 104,5, à Cherbourg, sur 87,8, au Havre, sur 101,1, au Mans, sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 27 avril 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 28 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire.